Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord le retour d'une grosse tête littéraire qui a obtenu 20 sur 20 pour son dernier livre, Daniel Picouli.
Ouais ! 20 sur 20 !
Une grosse tête parfois crouneuse, mais jamais crâneuse, Liane Folly.
Bonjour à tous.
Une grosse tête qui ment comme elle respire et rarement en détresse respiratoire, Christine Bravo.
Bravo, bonjour.
Une grosse tête qui joue actuellement par le bout du nez au théâtre et qui va au pif ici sur les questions, François Berléand.
Bravo.
Une grosse tête dont la culture est aussi large que sa filmographie, Jean Benguigui. Une grosse tête dont la présence dans le grand studio est toujours une bonne surprise, Pierre Palma.
Bonjour, bonjour.
Ah, on est content de retrouver notre Pierrot. Vous nous avez manqué, Pierre.
Et oui, j'avais perdu l'adresse hier. j'ai tourné. C'était presque la fin, c'est pas la fin que je vienne.
Vous retrouvez des amis, Liane Folly, Christine Bravo.
J'ai des amis et des idoles.
Qui sont les idoles, alors?
J'aime tout le monde. Mais François Berléand sur scène, voilà. Oh. Il fasse du drame ou du comique, François Berléand.
Et je crois qu'il est à peu près aussi menteur que Christine Bravo. Vous pouvez faire un concours, tous les deux.
Mais c'est vrai qu'il joue bien. Tu joues presque aussi bien que Duléré, dis donc.
Pas très gentil pour Jean Benguigui.
Bah quoi, il joue dedans?
Non.
Mais c'est aussi un grand acteur.
Parce que si je parle de l'un, faut que je parle de l'autre. Ah bah oui. Je sais très bien que c'est un immense comédien, Jean. Mais et oui. Puis, tu sais, il y a un truc formidable. Plus ça va, plus il ressemble à mon père, Jean. Non, mais c'est génial.
Et toi, plus ça va, plus tu ressembles à ma mère.
Vous voyez, monsieur Picouli.
Oui.
Les choses n'ont pas beaucoup changé ici.
Non, mais moi, je voudrais me plaindre parce que j'ai croisé monsieur Palma il y a quelque temps et il m'a snobé complètement. Et je suis allé vers lui et c'est là que je me suis aperçu que j'étais au musée Grévin. Donc, bien évidemment, mais voilà. Bah, ressemble, pas fâché.
C'est ressemblant à ce point-là, votre statue.
Oui. Et bien en photo, c'est vraiment
c'est extraordinaire.
Pierre, elle est ressemblante, la statue au Grévin.
Oui. Enfin, c'est moi qui ressemble à la statue. Parce que je snob les gens dans la vie comme ça. Non, c'est vrai qu'elle est bien faite.
Liane, vous êtes au Grévin, Liane Folly?
On l'a proposé plusieurs fois, et puis...
Ça s'est pas fait.
Ça s'est pas fait, mais je pense que ça me ferait plaisir un jour ou l'autre, oui.
Ils arrivent pas à la mouler.
Voilà, c'est trop compliqué.
Et vous, Christine, bravo.
Ouais, moi, c'est comme l'Ordre du Mérite, on me l'a proposé plusieurs fois, ouais. Mais j'ai jamais eu, parce qu'ils ont fait une enquête de moralité à chaque fois.
Une première citation du classique pour démarrer pour Karl Amas, qui habite Saint-Amand-sur-Sèvre, qui a dit « Si tous ceux qui n'ont rien n'en demandaient pas plus, il serait bien facile de contenter tout le monde.
Ah. » Moraliste?
Non.
Pierre Dac?
Pierre Dac, non.
Francis Blanc?
Non.
Non, Jean-Yann?
Non. « Si tous ceux qui n'ont rien n'en demandaient pas plus, il serait bien facile de contenter tout le monde. »
De Vos?
Pardon.
Raymond De Vos?
Mais non.
Il est mort?
Oui, il est mort.
Très, très mort.
Pierre Doris?
Non.
Guy Bedos?
Si tous ceux qui n'ont rien ne demandaient pas plus, il serait bien facile de contenter tout le monde.
Un révolutionnaire?
Pardon?
Qui a des proches?
Non, écoutez.
Coluche?
Quand on a la
réponse,
qu'est-ce qu'il y a, monsieur Berléand?
Mais oui. Non, mais quand on a la réponse, c'est facile de dire. Oh, bah,
oui.
Ah, bah, on l'a pas.
Il
est déjà de mauvaise humeur.
Mais non, mais c'est parce que j'en ai deux là-bas. Regardez-moi les deux enfoirés là. Il y a une folie.
Ah bon? Et alors?
Et Pierre Palmade.
Ah bah Coluche.
Et bah voilà Coluche. Voyez, monsieur Berléand.
C'est tombé.
Christine l'avait dit.
Non, mais laisse tomber. De toute façon, moi, je vais demander à rencontrer Brigitte Bourguignon. Je trouve que tu traites mal tes résidents.
– Ah ben, si vous aviez dit Coluche, pardon, je ne l'ai pas entendu.
Non, mais vous m'entendez jamais.
Oh, vous avez dû le dire à côté du micro.
Non.
Ou en même temps que quelqu'un d'autre.
Voilà. Voilà.
Voilà. Elle a le peuple avec elle.
Vous voyez, je me disais bien qu'il y avait bien un con qui l'avait dit plus tôt. C'était pas normal d'attendre si longtemps, j'avais bien deviné quand même.
Mais
quand
même, monsieur... Il faut vraiment avoir besoin de pognon pour venir ici. Se faire humilier comme ça, bon, mais pour 6000 balles, je viens.
Une autre question, hein, j'enchaîne. Ah, tiens, justement, une citation qui devrait faire plaisir à monsieur Berléand et à monsieur Benguigui. On a quand même des grands acteurs ici, Pierre
Sacha
Palmade.
Sacha Guitry.
Ah non, Pierre Palmade.
Molière.
Non, mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec Sacha Guitry pour Jérémy Tardon qui habite Issoire. Une citation que je ne connaissais pas, qui va vous amuser, je pense, en tant qu'acteur, qui a dit « Si les enfants et les animaux ont l'air si naturels au cinéma, c'est parce qu'ils comprennent pas le metteur en scène.
Wow. »
Alors, un acteur ?
Un acteur, une actrice.
Une actrice,
oui.
Qui a épousé Sacha Guitry. Il a épousé tellement de monde.
Ah non, alors ça, je vais vous dire, Sacha Guitry avait un peu meilleur goût que ça.
Elle est moche.
Pauline Carton.
Pauline Carton. Excellente réponse, Pauline Carton. Les plus jeunes ne savent pas qui est Pauline Carton.
Non, elle disait, quand j'étais jeune, j'avais la police et des jupes plissées. Maintenant, c'est le contraire.
Exact. C'est une autre citation de Pauline Carton. Une citation pour Sandrine Saunier, maintenant, qui habite Brive-Charensac, en Haute-Loire. Très jolie. C'est très court, mais c'est très joli. Écoutez, qui a dit « Une dynastie, c'est une collection de cadavres numérotés. »
On sait que c'est pas Stéphane Bern.
Non. Non, c'est intelligent, ça.
Alphonse Allais.
C'est Prévert, non ?
Prévert, non.
Allais, Alphonse Allais ?
Alphonse Allais, non.
Il a écrit des grands romans.
Oui, oui, certainement.
Non, mais c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu signé, vous voyez, la phrase est signée.
Alors, redites-la.
Alors, je vous la redis.
Oui.
Une dynastie, c'est une collection de cadavres numérotés.
Oh. Ah, donc c'est un historien, on va dire.
Non, c'est pas très optimiste comme non, phrase. Vous voyez.
Cioran.
Bonne réponse de Jean Benguigui. Voyez. Une autre citation maintenant, et ce sera pour Alice Grandperrin, qui habite Carpiquet, dans le Calvados.
Qui habite où ?
Carpiquet. Dans le
piqué. Pas le temps, c'est Saupiquet.
Carpiquet, c'est dans le Calvados.
Et dites-nous, une citation de qui ?
Commençons par ça.
Moi, ça m'aide. Hein.
Ah ben, c'est quelqu'un qui, un jour, alors qu'on frappait à sa porte, et même, je vais vous dire, c'est un témoin de Jéhovah, qui frappait à sa porte et qui venait lui annoncer la fin du monde.
Ah.
Et il a répondu, fallait pas vous déranger pour si peu.
C'est génial, c'est Doris ou non ?
Pas Pierre Doris.
Mais c'est Jean-Yann.
Alors pareil, c'est quelqu'un qui était pas très optimiste non plus pour répondre ce genre de choses.
Frédéric Dard.
Frédéric Dard, non. Un écrivain, diariste, critique.
Vialat.
Vialat, non. Mort en 56, 1956.
Ah oh, bah je peux pas le connaître, je suis né en 56.
Oui, mais c'est de la culture générale. Là,
justement.
C'est là où le bas blesse.
Si, vous le connaissez, parce que les écrivains venaient de temps en temps le visiter.
Julien Gracq.
Non.
Quand il était vieux, il venait le visiter.
Oui, il vivait chez lui avec ses chats. On venait Bonne réponse de Jean Benguigui. Ah oui, il va falloir vous y faire, monsieur Berléand. Jean Benguigui est une vraie grosse tête qui trouve beaucoup de bonnes réponses.
Oui.
Il va même plus vite que Picouli, vous voyez, qui est encore en train de chercher Cioran, vous voyez.
Vous voulez, je vous dis, je suis très content que d'être avec François Berléand parce que c'est un garçon, j'aime pas l'acteur, hein, mais j'aime beaucoup le mec. Voilà. C'est un vieux copain.
Alors, justement, puisque vous aimez les gens de théâtre, peut-être...
Sacha Guitry.
Non, peut-être connaissez-vous Vanik Le Poulain. Vanik Poulain, c'était une actrice.
Oui.
Vanik Le Poulain, on la voyait en femme agent RATP sur la ligne 11. Et ça a marqué l'histoire de la chanson. Et je vous demande justement dans quel clip de chanson on pouvait voir Vanick Le Poulain en femme agent de la RATP sur la ligne 11.
Les petits trous, les petits trous.
C'est un clip pour la carte orange ?
Alors pour la carte orange, pour les petits trous, non. Non. Et si je vous parle de cette chanson, c'est parce que c'est une chanson qui revient énormément dans l'actualité.
Ça a à voir avec les élections ?
Les élections, non.
Déjà, on ne sait pas qui c'est Monique Le Poulain.
C'est pas Monique, c'est Vanick.
C'était la fille de Jean Le Poulain, non ?
Il faut la parier. Il faut la parier.
C'était sa fille. C'était pas la fille.
Ah
non,
oh oui. Arrêtez de faire les.
C'est le thème. On cherche.
Parce que des Vanick, y a que ça. Tout le monde s'appelle Vanick.
Non.
C'est sûr, il y a plus de Vanick que de Monique.
Surtout toi. Vanick.
Est-ce qu'elle a
Vanick.
Vanick.
Le mec avec un ton.
Alors,
le mec avec un ton exaspéré. C'est pas Monique, c'est Vanick.
Non mais tu connais des Vanick ?
Oui, oui. Vanick Le Poulain.
Oui.
Et alors ça devait pas être la fille parce que Jean Le Poulain.
Oui, non, de Corinne. Corinne Le Poulain.
De la fille de Jean Le Poulain.
La fille de Jean Le Poulain, c'est Corinne Le Poulain.
Non, même pas. Parce que Jean Le Poulain n'a jamais eu d'enfant.
Jean Le Poulain à cette époque-là, vous voyez. Enfin, comment vous dire.
Il ne procréait pas. Il en était homosexuel.
D'accord.
Il était de la fanfare.
Non. Jean Le Poulain a connu peu de juments. Vous voyez.
Ah, d'accord.
Non, une chanson que vous connaissez tous, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en lisant, je vais vous aider un peu,
oui,
en ouvrant le journal Le Parisien, je me suis dit, ah bah tiens, voilà, une chanson qui était déjà d'actualité à l'époque, et c'est vrai que en recherchant, évidemment, des informations sur cette chanson, sortie en juillet 1987, eh bien, j'ai retrouvé le fait que la chanson était illustrée par un clip où on voyait Vanick Le Poulain en femme agent de la RATP sur la ligne 11.
Est-ce que c'est téléphone ?
Non, c'était la rame de métro, station Porte des Lilas, si ça peut vous aider.
Ah bah, Porte des Lilas, non.
Porte des Lilas.
Ah non, Porte des Lilas, non.
Le poinçonneur du métro, il était Porte des Lilas.
Non.
Rien à voir avec le poinçonneur du
Lilas. La chanson a quand même été le single, un disque d'argent, plus de 500 000 exemplaires.
Elle est bien, la chanson ?
Ah bah, vous allez voir.
Est-ce qu'on danse dessus ?
Je sais pas si on danse.
Est-ce que vous dansez ?
C'est pas le poinçonneur des Lilas.
Non, ça fait trois fois qu'on vous dit danse.
Non, mais moi, je danse aussi. Moi, j'aime bien qu'on me dise non.
Il faut faire un partenariat avec des équipements auditifs.
Est-ce que la chanson, c'est pas Henri Porte des Lilas ?
Ah non.
C'est pas non plus T'habites Porte des Lilas.
Ah, non, mais peut-être que vous pouvez trouver déjà le chanteur.
Voyez. Ah oui, bien sûr.
Il est mort ?
Non, il vit encore, le
Etienne
chanteur.
Mais il vit beaucoup, il vit plus beaucoup.
Ah, il vit plus beaucoup. On ne le voit plus beaucoup, mais il vit beaucoup. Il y a les deux enfoyés là-bas, ils pourraient quand même faire un effort.
Là. Alors, est-ce Goldman. Que ça serait pas...
Merci, Berléand.
Jean-Jacques Goldman.
C'est une chanson... Enfoiré, je sais qu'il travaille dans les enfoirés.
Oui.
C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman.
Et alors, ah, oui.
Et ben, ça y est, on a gagné.
Ah, bah c'est... Oui, Je marche seul.
Alors, pourquoi Je marche seul pour un Hidalgo, vous pensez ?
Oui.
C'est la une du Parisien aujourd'hui.
Ah bah oui, mais alors...
C'est pas sur la Covid ?
Ah non, c'est pas sur la
Covid. En
plus, Goldman, il a pas fait beaucoup de chansons, on va la trouver.
C'est pas sur l'insécurité dans le métro ?
Ah, l'insécurité dans le métro. Goldman a fait une chanson sur l'insécurité dans le métro.
Oui, sur les frotteurs.
Est-ce qu'elle est très connue, cette chanson de Goldman ?
Elle est très très connue, cette chanson, évidemment.
Quand la musique est bonne.
Ah, vous me la faites.
Quand la musique est bonne.
C'est pas ça.
Merci.
Je sais pas.
Oui, Pierre Léon.
Non, mais moi j'ai déjà dit Goldman, ça va.
T'es tranquille pour la matinée, là.
Oh non, c'est
300
pas
euros, 300
oh
euros. Monsieur Palmade, vous allez aller dans le public parce que les mains vont se lever nombreuses, j'imagine. Qui a une idée ? Il y a une dame au premier rang qui a une idée. Il n'y a personne qui a lu Le Parisien aujourd'hui.
Je pense que j'ai trouvé.
Comment
vous appelez-vous ?
Christine.
Et vous pensez à ?
Je ne suis pas sûre du tout. Elle a fait un bébé toute seule.
Bravo, madame !
Bravo !
Elle a fait un bébé toute seule.
On peut chanter avec les gens, on va chanter.
Ah bah si vous voulez, vous pouvez chanter.
Trois, quatre. Elle a fait toute seule. Elle a fait un bébé toute seule.
Il y a Christine qui fait la gueule. Pourquoi vous faites la gueule, Christine ?
Elle n'avait pas du tout. Je trouve ça magnifique.
Mais pas quand Yann chante, hein.
Quand Yann chante, mais quand eux, non.
Et pourquoi ?
Bon,
Bon, il y a quelqu'un qui a fait un bébé tout seul ici?
Mais non, mais c'est vrai que le Parisien titre sur la PMA, elles veulent devenir maman solo. En effet, c'est une surprise. La PMA favorise plutôt les femmes seules que les femmes en couple. Elles sont nombreuses à se dire, bon, ben voilà, il va bientôt être trop tard. Je veux faire un bébé maintenant. Vous avez fait un bébé toute seule, vous, Christine?
Comment ça, j'ai fait un bébé toute seule?
Là, votre fils, votre premier fils.
Mais j'ai pas fait toute seule. J'ai fait. Je me rappelle très bien. Il était sur moi, le gars. Et...
Faire un bébé toute seule, c'est pas toujours faire appel à la PMA. À l'époque, évidemment, bien sûr que vous n'avez pas fait appel à la PMA. Ce que je veux dire par là, faire un bébé toute seule, c'est aussi parfois se faire faire un bébé, puis voilà, et décider de l'élever toute seule.
Mais ça va pas, moi j'avais le sens de la famille, monsieur. Je tenais beaucoup à...
Mais enfin, il est pas resté, le gars, c'est ça que je veux dire.
Et il est pas resté, il est pas resté.
Il aurait dû partir avant, surtout.
Il avait qu'à se retirer, oui. Je sais pas si j'ai un bébé toute seule, mais je le vois plus. Le bébé, hein, je vois plus.
Tu vois plus l'âge, il a le bébé maintenant.
Je sais pas. 40 et quelques.
Ouais, ouais, voyez, tu le vois jamais? Hein? Tu le vois jamais?
Ben non.
Ah oui?
Eh ben, et alors, ça peut vous foutre. Hein. Moi, vous comprendrez quand vous aurez des enfants. Ils sont pas toujours gentils.
Les enfants?
Non.
Pourtant, avec une mère, les élèves, une mère aussi douce, aussi délicieuse.
Je suis d'accord, c'est très injuste.
Mais ouais, c'est très injuste.
C'est très injuste.
On a en tout cas de... Non, mais écoutez, on a en tout
vraiment,
cas...
Vraiment, quand j'étais en désintox, elle n'est même pas venue me voir.
Je l'adore.
En tout cas, on a déjà distribué 400 euros pour une question qui était très facile. Ben quand même. Hein. Gaëlle Brisquet habite Paris 20e. Elle espère, elle aussi, toucher un chèque RTL. Tout est possible aujourd'hui. En tout cas, la question qui va venir va nous permettre d'avoir au téléphone le maire du 13e arrondissement, monsieur Jérôme Coumet, parce qu'il a vu pas mal d'enveloppes rouges passer ces jours derniers. Pour quelle raison?
Des enveloppes rouges?
Oui, des enveloppes rouges.
Des demandes de parrainage?
Des demandes de parrainage? Non.
Le recensement?
Le recensement? Non. Pour quelle raison, monsieur Courmet, qu'on va avoir au téléphone dans un instant?
Bah oui, parce sens de vraies enveloppes.
Oui, des vraies enveloppes rouges.
Eh bien, vous avec vous.
Uniquement pour le 13e arrondissement?
Oui. Oui, parce que c'est le nouvel an chinois.
Excellente réponse de Yann Folli. Oui.
Et c'est l'année du tigre.
Bonjour, monsieur Courmet.
Bonjour.
C'est Yann Folli qui a trouvé la bonne réponse. Bonjour. Il paraît que c'est une tradition. C'est une tradition, vraiment, les enveloppes rouges au Nouvel An chinois.
Ben oui, c'est pour se souhaiter la prospérité. Donc on met des pièces de monnaie dans des enveloppes rouges et on s'échange ainsi des vœux de prospérité.
Mais est-ce qu'il y a eu un défilé?
Avec quelques mandarines aussi.
Est-ce qu'il y a eu un défilé comme chaque année? Il y en a normalement.
Ah non, malheureusement.
Ah, et voilà.
Très triste à cause évidemment de l'épisode sanitaire.
J'ai adoré votre quartier, votre arrondissement. J'y ai vécu très longtemps et j'avais pas de pognon à l'époque. Et donc. Et j'ai adoré vivre dans le 13e.
C'est après qu'elle a eu une vie débridée. À combien de personnes on peut compter, comptabiliser? Vous savez, vous êtes maire du 13e. La communauté chinoise dans le 13e arrondissement.
C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en sait. France. Hein, donc, allez, on va dire 15 000 personnes, mais c'est très difficile à déterminer précisément.
Est-ce qu'on sait, et est-ce que vous savez, vous, en tout cas, de quel signe chinois vous êtes?
Oui, je suis cheval.
Cheval!
Oh, cheval de feu.
Et c'est le cheval de feu,
vous êtes... flamboyant. Est-ce qu'on tombe bien avec le tigre, donc ça tombe bien.
Ah oui, ça t'entend très bien avec le tigre. Mon frère est cheval de feu. Est-ce que vous êtes de 66 aussi?
67.
Et alors,
moi, je suis pangolin, moi.
C'est vrai que ça s'entend bien avec le tigre.
Monsieur Berlian, l'année du pangolin, c'était il y a 2 ans.
Et encore, c'est pas prouvé.
J'ai une question, il y a des bureaux de tabac dans le 13e?
Oui, comme partout.
Qui sont tenus par des Auvergnats. Un mot quand même sur le signe astrologique chinois de chacun. Pierre, vous êtes singe, Pierre Palmade. Ah. Tout comme Christine Bravo et Jean Benguigui. On a 3 singes ici.
Ils sont mal barrés, hein, parce que les tigres mangent des singes.
Oui, les tigres mangent des singes.
Yann Folli est tigre. Ah, moi, je suis chat, moi.
Chat.
Ah, moi, je suis chat. Oh.
Vous êtes tout mignon, un chat.
Ah, vous êtes tout mignon, un chat.
Ah, ouais, c'est mignon.
Et alors, Picouli, vous êtes rat, vous.
Ouais, bah, c'est vrai.
On me l'avait dit.
C'est pour ça que j'ai parlé des pêches jaunes.
On me l'avait dit dans les salons du livre. Il est rat, Picouli. Bah voilà, on a quand même trois singes, un tigre, un rat, un dragon aux grosses têtes aujourd'hui.
Oui, parce que c'est moi le dragon.
Ah ouais.
Ah oui, c'est vous le dragon, monsieur Bernard. Oui, vous l'avez pas dit, mais c'est vous le dragon.
Oui, c'est pour ça que je le dis.
Mais il n'y a eu aucune parade, aucun, même pas une petite fête là pour le nouvel an alors, non, cette année.
Il y a pas mal de choses qui sont organisées quand même, parce qu'on n'a pas voulu tout annuler. Donc il y a des projections, des expos, un match du Paris Basket d'ailleurs dimanche prochain le Carpentier qui sera avec pas mal de festivités pour le nouvel an. On a fait en sorte qu'il y ait quand même un certain nombre de rendez-vous culturels, bon, mais pas le grand défilé.
Vous savez qu'il y a des gens qui savent pas que dans le 13e, enfin des Parisiens je parle, parce que c'est pour les Parisiens, que dans le 13e il y a les meilleurs restaurants du monde. Donc vous,
chinois
et tout, thaïlandais, ouais. Tous les restaurants asiatiques les meilleurs du monde et des épiceries ouvertes non-stop, Tang frère. Les gens le savent pas tous. Et c'est pas parce que c'est exceptionnel.
Ah bon. Oui, c'est exceptionnel. Ouais. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'il y a deux grandes gastronomies dans le monde, la française et la chinoise, avec des parfums très différents d'une région à l'autre de la Chine, puisque la Chine c'est un continent. Il y a évidemment aussi tout le sud-est asiatique, des gastronomies très différentes, certaines qui sont douces, certaines qui sont très épicées. Il y a des choses.
On me laissera rentrer avec mon chien.
On ne laissera
pas sortir. On vous remercie, monsieur le maire. Bonne année. Bonne année.
C'était bonne année en chinois, ça se dit.
Ah oui, oui.
Ah bah très bien, merci. Au moins on aura appris quelque chose. Redites-nous-le une fois.
Sinequailo.
Et ben vous aussi, on vous souhaite une bonne année. Et bonne année à toute la communauté chinoise qui nous écoute.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Pierre Palmade, François Berléand, Jean Benguigui, Daniel Picouli, Christine Bravo et Yann Folli. Alors normalement, ça va être votre moment, monsieur Picouli.
Oula.
Ah bah oui, puisque c'est l'heure des questions littéraires. Bon, on va commencer avec quelque chose de très facile pour José Dos Santos, qui habite Lignan-sur-Orbe. C'est dans l'Hérault. Je vais vous parler d'un roman. Il s'agit de retrouver le nom du roman et de l'auteur, évidemment.
Sacha Guitry.
Non, un roman dont le héros s'appelle Léopold Bloom. Hein? Ça se passe sur une journée, entre 8h du matin et 3h du matin, pendant la nuit. L'action commence même le 16 juin 1904 à 8h du matin pour se terminer dans la nuit aux alentours de 3h. Il s'agit de suivre les pérégrinations de Léopold Bloom et Stéphane Dédalus. Mais de quel roman s'agit-il ?
Ulysse de Joyce.
Ouais.
Excellente réponse de Jean Benguigui. Ulysse de James Joyce. Alors là, bravo, monsieur Benguigui. Non, mais vous êtes très fort, Jean, il faut le dire.
Mais je vais me taper Picouli, ça m'a fait plaisir.
Et vous savez pourquoi?
J'aime te faire plaisir.
Vous savez pourquoi on parle de ce roman?
Non.
Et ben parce que
c'est réédité.
C'est les 100 ans. Les 100 ans de ce roman paru en France en 1922, le 2 février 1922. Et effectivement, on suit les aventures de ces deux personnages, Ulysse et Télémaque, mais dans le roman, il s'appelle Léopold Bloom et Stéphane Dédalus, dans la ville de Dublin, puisqu'il faut rappeler que James Joyce était irlandais. Excellente réponse. Deuxième question littéraire, attention. Il s'agit d'un écrivain plus contemporain, cette fois, à retrouver pour Christine Cheminée, qui habite Uzech, dans le Lot. Un écrivain qui fut le compagnon de la chanteuse Jane Birkin, qui a écrit, entre autres, Tigre en papier, Un chasseur de lions, Le météorologue ou Port Soudan.
Pourquoi il a été le compagnon de Birkin ?
Parce qu'il a été le compagnon de Birkin. C'est idiot ce que tu dis.
Comment vous voulez que je réponde à une question aussi idiote ?
Auteur français ?
Ah oui, un auteur français.
Serge Gainsbourg.
Ah, Serge Gainsbourg, non.
Je connais que Jacques Doyon, mais c'est pas...
Qu'est-ce que vous dites ?
Je connais que Jacques Doyon.
Ah, Doyon,
c'est le cinéma.
C'est Rollin, Olivier Rollin.
Olivier Rollin, excellente réponse de Jean Benguigui. Bah alors, Picouli.
Ah non, non, mais moi, j'aime faire plaisir à Béguigui. C'est comme ça.
Il y a François Berléand qui s'est levé pour vérifier s'il n'y avait pas des oreillettes dans les oreilles de Béguigui. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Qu'est-ce qu'il y a?
Ben non, mais c'est vrai. C'est
regardez, il a honte de trouver les bonnes réponses.
Il est trop mignon, j'adore, il est parle.
J'ai honte pour les autres.
Alors là, la honte.
Allez, on va partir outre-Manche, si vous voulez, maintenant, pour trouver le nom d'un écrivain, un romancier britannique. C'est pour Virginie. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Berléand?
Non, on était déjà avec Joyce, on était en Irlande.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais alors là, on est...
Oh, le râleur. Oh, le bougon, le mec bougon.
Je m'y suis fait.
Il bougonne.
Je m'y suis fait. Non, mais il a raison, outre-Manche, il y a l'Irlande aussi. Mais là, c'est quelqu'un qui est né à Leicester. On est vraiment en Angleterre, qui a publié des romans policiers, Leicester. Aussi sous le pseudonyme, ça va peut-être vous aider, sous le pseudonyme de Dan Kavanagh. Ça, c'est son pseudo de romancier policier, mais on lui connaît aussi d'autres romans sous son vrai nom, comme le célèbre Perroquet de Flaubert.
Flaubert. Ah, on le connaît.
Oui.
Oh la vache.
Traducteur d'Alphonse Daudet.
Mettez-toi.
Il a même gagné chez nous en France le prix Médicis pour le Perroquet de Flaubert.
Dis-le!
Mais non!
Mais Guigui, vous avez la réponse.
Et ça vient pas, je sais qui c'est, mais ça vient pas.
Moi, je sais pas qui c'est, ça vient pas non plus.
Tu vois, on a des trucs en commun.
Alors, on va peut-être chercher un prénom un peu irlandais. Alors, David.
Non, mais... David Lodge.
George.
Ah non, David Lodge, non.
George, Stéphane.
Non, je connais.
Non.
Julian Barnes.
Julian Barnes. Excellente réponse de Christine Bravo.
Ça y est.
Ah non, mais là, on a des vraies grosses têtes. Ah, ouais. Ah non, ça fait plaisir.
Ouais, mais il l'avait aussi.
Pouvez-vous maintenant me dire, pour Thomas Aquin, qui habite Angoulême, qui a écrit en 1959 un roman qui s'appelait Le Centenaire, divagation d'un vieillard, épopée de la mémoire, un roman bourré...
C'est Borges ?
Non, un roman bourré d'humour, d'autant plus que cet écrivain romancier, à cette époque-là, ne savait pas qu'il allait réellement devenir...
René de Obaldia.
Centenaire, et c'est une bonne réponse de Yann Folie.
Centenaire.
Pardon, j'ai pas attendu parce que, en fait, oui, il vient de nous quitter, René. J'ai eu l'immense honneur de le connaître puisque je partageais avec lui l'Académie Alphonse Allais. Donc, on a passé des doux moments ensemble et surtout, j'ai adoré sa définition.
Attendez, quand vous dites des doux moments.
Non, mais parce que. Il bandait encore?
Oui. Oh, mais non, mais on n'a pas toujours.
Vous êtes devenue chanteuse d'Orpéa? Un autre écrivain contemporain pour laisser une dernière chance à Daniel Picouli.
C'est moi, là.
À la vache.
Ah bah non, mais monsieur Picouli, d'habitude, j'ai pas... Bon, faut dire que le jour où on a Jean-Benguigui, faut reconnaître que là, quand même, c'est un jour difficile.
On sait pas. Ah, je suis en embuscade aussi. Hein.
Alors voilà quelqu'un qui est né ici, d'ailleurs, à Neuilly-sur-Seine, qui est mort en 2006, à l'âge de 77 ans. Je peux donner les dates, vu que Paul Alcarat n'est pas là aujourd'hui. Il sera là demain. Et il s'agit de retrouver le nom de cet écrivain qui a été pris Roger Nimier, pris des deux magots. Et cet écrivain français fut d'ailleurs journaliste à l'Obs pendant très longtemps. Il a écrit 5 rues des Italiens, les rues de ma vie 20 ans avant, la panoplie littéraire, un siècle débordé.
Bory, non plus.
Grognard et Hussard, les temps modernes, géographie universelle.
Oh, il est connu, ton
Nimier ?
Ah non, Nimier, non.
Il écrivait des chansons ?
Ah non, il n'a pas écrit de chansons, mais il a été responsable de la rubrique littéraire à l'Observateur pendant des années, à la place de Maurice Nadeau, et il a été lui-même écrivain, un écrivain prolifique, comme je viens
de dire. Il est mort ?
Comment ça, il est mort ? Oui, il est
en
mort
74,
en 2006.
C'est pas Bernard Franck ?
Bernard Franck, excellente réponse.
Oh là là. Alors lui, je l'ai adoré. Quel mec génial. Ça fait de la peine, tout ça. Mais c'est...
Ça fait 15 ans qu'il est mort. Elle savait pas qu'il était mort. Oui. Donc, si tu veux, ça lui fout un coup. T'aurais commencé par dire... Il était fatigué. Il perdait un peu la mémoire.
Je lui ai annoncé ça d'un coup, comme ça.
D'un coup, comme ça, c'est pas possible.
Oui, parce que je l'ai connu il y a très longtemps. Et donc, je l'ai pas revu. Bah, et je l'ai connu bien avant 2006. Il est mort en 2006.
Vous voyez,
oui.
Ceux que rencontre Yann Folie vivent plus longtemps. Une question pour Mehdi Habibi qui habite.
Ah,
oui, ça vous rappelle les chansons.
Habibi, 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 c'est pas de chez toi, ça.
C'est chez moi.
Habibi,
chez moi.
Habibi, Habibi, Habibi. Oh oui, fais-le, fais-le.
Madame Naflaoula.
J'adore quand il fait l'arabe. Vas-y, fais-le. Fais l'arabe.
Non, je vais pas l'arabe.
Allez,
j'ai pas d'arabe, je vais être poursuivi.
Non, allez.
Tu vois, je vais faire l'arabe avec 30% d'extrême droite en France. Mais t'es con, quoi.
C'est pas faux.
C'est très bien. Habibi, ça veut dire mon amour, ma jolie.
Écoutez, de toute façon, Mehdi, Habidi, c'est pas Habibi, c'est Habidi.
Ah, ça change tout, c'est Habidi, Habidi. Alors que l'autre, c'était Habibi, Habibi. C'était con, faut Habidi, Habibi, t'es foutu.
Il habite Vireux-Valeron, en Ardennes, dans les Ardennes. Et notre auditeur espère un chèque RTL qu'on lui souhaite. La question n'est pas si simple, même si elle est dans l'actualité. Quel est l'autre nom du dessement des Pyrénées qui vient d'être classé espèce en danger?
C'est une bête.
C'est une bête, oui.
Ça, c'est une bête, c'est une bête.
Et le dessement des Pyrénées.
Ça vole?
Ah non, ça vole pas, le dessement.
C'est un ours. Ça a quatre pattes?
Alors attention, je vous demande son nom entier au dessement des Pyrénées, parce qu'il y a deux noms, il y a un nom, on va dire, plus connu que...
Lizard.
Lizard, non.
Tu ne nous demandes pas son prénom, par exemple Albert, on s'en fout.
Non, je vous demande pas son prénom, non, non.
Est-ce qu'il existe dans les Alpes?
Il est plutôt dans les Pyrénées, le dessement des Pyrénées. Il est, vous voyez, au nord de l'Espagne et du Portugal.
Donc, il a un accent. Ben oui.
C'est un petit animal.
Il est un rongeur. Petit, il est petit.
Rondel. C'est un rongeur. Alors, enfin, maintenant.
Tout le monde ronge. Je veux dire.
C'est vrai.
C'est pas
distinctif, c'est vrai.
Non. C'est toi, tout le monde ronge. Laurent ronge.
Un rat.
Vous, si vous êtes arrivé là, c'est parce que vous avez beaucoup rongé. Il n'y a qu'à la maison que c'est mal rongé.
Ça y est, t'es le cochon. Tu pas d'animal.
Est-ce que ça serait pas une taupe?
Tout de suite.
Une taupe, non.
Est-ce que c'est gentil comme animal?
Oh, c'est gentil. Bah là, en tout cas, on en a besoin parce que c'est une espèce en danger.
Un écureuil.
Un écureuil, non.
Une belette.
Alors, c'est un museau pointu.
Oh, j'adore.
Un blaireau,
non.
Ah non, un fourmilier.
Alors, un fourmilier, non.
Ça se mange.
Alors, ça se mange pendant la guerre, éventuellement.
Un ornithorynque.
Un castor.
Non, un castor. Plus simple que ça.
Un ragondin.
Alors,
c'est dégueulasse, les ragondins. Faut les tirer, les ragondins.
Plus petit qu'un ragondin.
Moi, je tire les ragondins.
Castor.
Alors, non, non.
Une musaraigne.
Non, non, non.
Une souris.
Est-ce que ça fait des cabanes avec
plus
sa queue?
Plus gros qu'une souris.
Un rat.
Mais alors, je l'ai dit tout à
l'heure. Un rat musqué.
Un rat,
ça suffit pas.
Ah oui.
Il faut trouver quelle sorte de rat.
Un ratatouille.
Un rat des champs.
Ratatouille.
Un rat de la montagne. C'est l'heure.
Non.
Un rat des Pyrénées.
Alors, le dessement des Pyrénées, c'est un rat qui a une particularité physique.
Sans poils.
Alors non,
il est nu.
Il a des poils. Ah. Effectivement, il a des petites pattes palmées qui lui permettent.
Il peut grimper.
Un rat canard.
Alors un rat canard. Non, non, c'est
un rat des marais.
Non, c'est plutôt lié à son museau. Vous voyez, c'est
un raton laveur.
Non.
Qu'est-ce qui est lié à son museau?
Un rat Cyrano.
Son
long nez.
C'est son nom. Son nom, c'est un rat...
Poilu, moustachu.
Moustachu, non, 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 non.
C'est un rat avec un bec de lièvre. Alors... C'est très rare.
Ça s'opère.
Ça s'opère.
Il repère ses proies sous l'eau, vous voyez.
Non.
Et Pierre, comment il va les choper, ses proies?
Il va avec une canne à pêche et un fil.
Avec sa queue.
Non.
Avec sa queue.
Avec les dents.
Non, qu'est-ce qu'il a?
Dents.
Les poils.
Avec une langue, avec sa langue. Il a un hameçon je le connais.
Un hameçon.
Il a un crochet. Sur la langue. Il a un hameçon sur la langue.
Il a un cheveu sur la langue.
Mais non.
Qu'est-ce qu'il a? Avec quoi il le
crochet?
Il le gobe.
Avec ses incisives.
Il le suche.
Non.
Il l'aspire.
Il a une trompe. Un rat trompeur. Un rat trompe.
Il a une trompe. Et on l'appelle donc le rat.
Le rat trompette.
Le rat trompette. Bon. La réponse de Jean Benguigui. Eh oui. Désormais, le rat trompette est une espèce classée en danger.
Je peux savoir.
Oh, bah, je comprends.
Comment?
J'ai dit Jean-Jacques Goldman et j'ai dit rat. Non, mais.
Ça,
ça bosse.
Enchaînons avec le rat trompette, si vous le voulez bien. Ouais. Pour Fabrice Marchal, qui habite Pollestre, justement. Quel est l'instrument de musique qu'on appelle aussi la trompette de Cannes? C'est plutôt effectivement comme un roseau évidé, avec seulement une petite membrane qui fait résonner l'instrument.
C'est un espèce de hautbois, de
piano,
flûte.
Piano.
Alors c'est une petite flûte, on appelle ça aussi la flûte eunuque.
Eh ben, c'est une flûte arménienne.
Pardon?
On a coupé une partie.
Oui, en quelque sorte.
C'est pour ça qu'on l'appelle la flûte eunuque.
La flûte eunuque. Elle
c'est un pipeau.
Elle mesure à peu près 20 cm.
Ah, quand même, oh la vache.
Elle s'allonge.
Ça fait longtemps que j'ai pas soufflé là-dedans, moi.
C'est un mirliton. C'est un mirliton.
Un mirliton. Bonne réponse de Daniel Picouli.
Donc il faut souffler.
Un mirliton. Bonne réponse. RTL, le livre du jour. Le livre du jour, il est signé Bastien Stizy, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Il est rédacteur en chef adjoint à une radio concurrente, mais néanmoins ami, Radio Nova. Ah ouais. Mais chaque lundi soir, il est bénévole et co-responsable de la distribution des repas à Saint-Lazare pour les Restos du Cœur. On a là deux célèbres enfoirés, en la présence de Liane Folly et Pierre Palmade. Et évidemment, ils seront intéressés par ce livre qui s'appelle Le Ventre Creux, préfacé par Romain Colucci. On aura Bastien Stizy dans un instant au téléphone. On peut d'ailleurs écouter un extrait du nouveau single des Enfoirés qui s'appelle « Il y aura toujours un rendez-vous ». Et ça ira. C'est la nouvelle chanson originale, premier single. Non, pas « Et ça ira ». Et ça ira.
Ah, pardon.
C'est une chanson qui a été écrite et composée par Jacques Vénérouzo. C'est le nouveau single des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. Il y aura toujours un rendez-vous. Mais quel est celui, quel enfoiré, puisqu'on les appelle ainsi, ceux qui participent aux Restos du Cœur, quel enfoiré a fait la photo qu'on peut voir sur le single de cette fameuse chanson qui est la chanson de l'année pour les Restos du Cœur.
Goldman.
Non.
C'est Thomas Pesquet.
Pardon.
C'est Thomas Pesquet.
Thomas Pesquet. Excellente réponse de Liane Folly.
Et bah c'est vu de haut alors.
Il avait un téléobjectif. Oui.
Et bah oui, il a fait une photo de là-haut. Oui. Et ils ont choisi cette année aux Enfoirés une photo prise par Thomas Pesquet pour illustrer le single.
Et comment il a fait pour prendre un téléobjectif, les Enfoirés en photo
Mais non, il a pris une photo.
Il a pas pris les Enfoirés en photo.
Il a fait la terre en photo.
Il était en tout cas aux Enfoirés cette année. C'est un nouveau participant.
Grande fierté. Il a pris Essaouira en photo.
Et ça ira, c'est la chanson. Bonjour Bastien Stizy.
Bonjour.
Alors c'est vrai que cette chanson est faite pour apporter quelques repas supplémentaires aux Enfoirés. C'est le principe évidemment de cette action faite par les artistes chaque année, même si c'est dans des conditions un peu plus difficiles depuis quelques années. Vous racontez vous-même d'ailleurs les difficultés de servir des repas pendant cette période de confinement. Vous avez un des derniers chapitres qui s'appelle même « Déconfiné ». Ça a changé quoi d'ailleurs pendant toute cette période de confinement et déconfinement pour la distribution à ceux qui réclament à manger ou pour avoir moins froid et moins faim.
Moi déjà concrètement, je suis responsable d'une distribution dans la rue et la première chose qui a changé, c'est que le lien social qu'on offre d'habitude aux gens a été un petit peu plus difficile à accomplir dans la mesure où on est passé sur des distributions de paniers repas où les gens se présentaient aux distributions et où malheureusement ils devaient partir assez rapidement, vous imaginez bien, pour pas faire de cluster évidemment dans nos sites de distribution.
Alors vous racontez comment vous êtes arrivé à distribuer des repas, c'est votre compagne au départ qui le faisait chaque lundi soir, puis un jour elle vous a demandé de la remplacer, vous n'aviez jamais fait ça, vous saviez même pas, c'est amusant au début, vous dites, je me suis même interrogé, comment je dois m'habiller au fond?
Bah ouais, mais c'est un peu l'idée du bouquin, c'est de raconter toutes ces problématiques auxquelles on est confronté quand vous avez pas les codes. C'est que moi au début, je me suis juste dit j'ai envie d'aider. À quoi? Bon bah là en l'occurrence, c'était pour le Resto du Cœur, mais ça aurait été pour autre chose. Et les premières questions que vous vous posez, c'est ça, c'est comment je m'habille, comment je dois me comporter, est-ce que je dois être ultra poli, est-ce que je dois... Enfin voilà, c'est tout un tas de questions de ce genre qui arrivent.
Alors vous racontez évidemment les bénéficiaires des Restos du Cœur, mais aussi les bénévoles, ceux qui servent évidemment la soupe ou à manger, et c'est parfois pas toujours facile, il y a l'exemple de quelqu'un qui râle même, hein. Tiens, c'est une sorte de Berléand qui râle un peu comme ça dans l'émission, qui dit...
Berléand ne râle pas, il bougonne.
Vous en mangeriez, vous, de cette soupe-là? Vous voulez qu'on se bouche les artères avec votre saloperie de soupe? Goûtez au moins ce que vous donnez aux précaires avant de leur servir, ça vous fera pas de mal, putain de bourgeoise. C'est pas toujours facile d'être bénévole, donc?
Non, c'est pas toujours facile d'être bénévole, mais c'est plus facile quand on est de ce côté-là de la barrière, quand même.
Évidemment.
Mais c'est sûr que les premières fois que vous assistez à ce genre de distribution, vous êtes étonné. Si vous vous imaginez naïvement, enfin j'imagine que ça peut arriver qu'on vous défile le tapis rouge, voilà, parce que vous êtes le saint qui vient donner un petit peu de son temps, etc. Or bon, bah c'est pas ça du tout, et il faut s'y faire. Et si vous voulez, moi si une personne me reproche un truc pendant une distribution qui est liée au fait que la soupe n'est pas bonne ou je sais pas quoi, et qui s'ensuit une petite dispute qui peut arriver, bah, je sais très bien que c'est pas à moi directement qu'il s'adresse. Évidemment.
Au départ, vous hésitez même à, pour les mots qu'il faut prononcer une fois que vous avez donné à manger. Est-ce qu'il faut dire « bonne soirée » ? Et vous dites hein, dans le livre « bonne soirée » dans d'autres circonstances, ça va de soi, mais est-ce que c'est pas inadapté de souhaiter une bonne soirée à des gens qui en sont là ? Et puis finalement, vous entendez une collègue bénévole à côté de vous qui dit « très bon appétit, monsieur, et très bonne soirée à vous ». Et vous adaptez, vous prenez cette formule, finalement, c'est mieux comme ça.
Ouais, ben on se pose ces questions en fait. C'est vraiment hyper important la manière dont on s'adresse aux personnes dans ce genre de distribution. C'est que, alors on n'a évidemment pas uniquement de sans-abri à cette distribution, mais on en a quand même pas mal. Et forcément, les logiques d'une journée quand vous êtes à la rue sont pas tout à fait les mêmes quand vous êtes au boulot, au chaud, avec les problématiques qui sont les nôtres. Voilà. Donc, faut faire vachement gaffe.
C'est le récit engagé d'un bénévole face aux injustices sociales. C'est publié chez Alizio. Ça s'appelle Le Ventre Creux. Le lundi soir au Resto du Cœur, c'est signé Bastien Stizy. Et c'était le livre du jour. Et n'oubliez pas les Restos du Cœur. Une question pour Gérard Sadoc à propos de Monica Vitti. Est-ce que vous pourriez me retrouver les noms des deux premiers réalisateurs français qui ont fait tourner cette actrice italienne? Vous pouvez vous donner les deux premiers films français dans lesquels elle a joué, Les Quatre Vérités et ensuite Château en Suède.
François Sagan.
Alors, Château en Suède, c'est effectivement...
Roger Vadim.
C'est, le réalisateur, c'est Roger Vadim. Bravo, ouais. Jean-Benguigui.
Ouais, j'ai dit Sagan, hein. J'ai dit Sagan quand même.
Sagan, c'était l'auteur du roman, mais le film, l'adaptation du roman était bien réalisée par Roger Vadim.
Oui, mais le livre était bien meilleur que le film.
Alors maintenant, il s'agit de retrouver le nom du réalisateur français, scénariste, membre de l'Académie française d'ailleurs, hein, jusqu'à sa mort en 1960.
Oula, c'est rare. René Clair.
René Clair. Encore une bonne réponse de Jean-Benguigui. Bah, puisque vous êtes très fort, Jean-Benguigui, je vais vous demander maintenant le dernier réalisateur français à avoir fait tourner Monica Vitti.
Chéreau.
Chéreau, non.
Non, elle a refusé la Reine Margot.
C'est en 1978 qu'elle a...
C'est l'autre qui a eu qu'il a eu le...
Jean, le but n'est pas que de gagner. Hein.
C'est un film qui s'appelait La Raison d'État.
Ah oui.
Lautner.
Oui. Lautner, non.
Non.
Un réalisateur bien connu, à qui on doit aussi mourir d'aimer.
Ah, Cayatte.
André Cayatte. Bonne réponse.
Cayatte.
Excellente réponse.
De qui ?
De Christine Bravo.
Cayatte.
Mais elle me boufferait, hein.
Ah bah, et comment ?
Je peux même pas savoir. Bah, pour Pierre Mouchet.
Vous savez déjà.
Oh.
Oui, parce que...
Comment elle peut penser que j'ai couché avec elle ?
Tu as pas... J'ai jamais dit qu'on avait couché. Enfin, tu te rappelles bien.
T'étais sous anesthésie ?
Christine, franchement, j'aime les hommes, mais pas à ce point-là. J'ai une autre question sur Monica Vitti, puisqu'on parle des jolies blondes.
Ah, il se rattrape, il se rattrape.
Il y en a une qui est Vitti et l'autre à éviter. Hein.
Oh,
Vitti,
Vitti,
je ne sais pas.
Quand tu penses que j'ai hébergé cet homme.
Un des célèbres. Bon.
Il était à la
des,
rue.
Un des célèbres films joués par Monica Vitti, réalisé justement par son compagnon de l'époque, Michelangelo Antonioni. C'est La Ventura. Rien à voir avec la chanson de Stone et Chardin, La Ventura. Elle était en rivalité dans ce film de Michelangelo Antonioni avec une autre actrice italienne. C'est même l'histoire, évidemment, du film. Quelle est l'autre actrice?
Laura Antonelli?
Non, quelle est l'autre actrice italienne qui forme un trio avec l'acteur principal Gabriele Ferzetti?
Ah oui. Ah, c'est une italienne.
Une italienne, oui, bien sûr. Oui puisque ce sont deux meilleurs amis, puis alors, il y en a une
Sophia
des
Loren.
Deux. Ah non, il y en a une des deux qui va piquer Ventura. Le mec de l'autre, c'est un principe.
Gina Lollobrigida.
Non, Gina Lollobrigida.
Très connue.
Berlin a proposé Lino Ventura.
Ce n'est pas Lino Ventura, ni...
Claudia Cardinale.
Ni Lina Venturo. Claudia Cardinale, non.
Virnalisi.
Virnalisi, non.
Et blonde.
Blonde, non. Brune, il y avait une blonde. Souvent dans ces cas-là, il y a une blonde, une brune, puis le mec doit choisir entre les deux, c'est ce que c'est.
Elle est âgée aussi.
Elle a tourné une cinquantaine de films. Ah, elle vit encore, elle est née en 33.
Elle vit beaucoup. Ah oui, elle vit plus beaucoup.
Elle est...
Bah, 33.
Lizzie, non. Elle a joué quand même pour des réalisateurs français, elle aussi.
Ah bon,
elle a joué pour Claude Sauté, Claude Pinoteau, Henri Verneuil, Louis Malle.
Oh bah alors, vous devriez le savoir. Elle est très connue.
Ah bah très connue, bien sûr, autrement.
Henri Merde. Pardon,
oui, Henri Merde, non.
Elle a un nom très italien.
Mais si, elle est si.
Ça vient.
Monsieur Benguigui, vous le savez.
Je suis bloqueur.
Faut le dire,
oui,
vous le savez.
Je sais pas.
Non, parce que là, il a honte de trouver les bonnes réponses maintenant.
Je sais pas.
Elle a un prénom italien.
Léa Massari.
Pardon.
Léa Massari.
Bonne réponse de François Berléand. C'est Léa Massari. Ça, c'est une question à portée de tout le monde, parce que c'est lié au cinéma, mais pas seulement. Puisque, il faut le rappeler, Monica Vitti a obtenu 5, ce qu'on appelle les Césars italiens, vous voyez. Mais alors, justement.
Les Donatello.
Les Donatello. Ouais.
5 Donatello.
Donatello,
bonne réponse. Bonne réponse de Jean Benguigui.
Oui. Elle a eu un lion d'or et un ours.
Un ours d'argent à Berlin, un lion d'or à Venise, mais c'est
ça
vrai que...
Ça fait longtemps que j'ai pas eu un ours.
Ni un lion, d'ailleurs.
Elle est bonne.
Donatello, qui était d'ailleurs Donatello? Voilà une question subsidiaire.
C'est pour Berléand.
Donatello, Berléand.
Non, bah, c'était un créateur de théâtre.
Non, c'était c'était pas un peintre. Comme pour les Césars.
Un auteur.
Non,
c'était un sculpteur.
Un sculpteur, comme chez nous. César était un sculpteur. Alors, en revanche, Oscar n'était pas
un sculpteur. C'était un Oscar.
Absolument. Oui. Les Oscars aux États-Unis, les Césars en France, les Magritte, je crois, en Belgique.
En Belgique. Oui.
Et vous le saurez
et
désormais.
Et les Goya en Espagne.
Les Goya en Espagne, très bien. Et en Russie, alors, monsieur Berléand, vous qui avez été récompensé de manière internationale.
La Datcha.
Il dit n'importe quoi.
La Datcha de Poutine.
Il y a les Poutines, il y a les Zizba, il y a les Datcha.
Vive l'Ukraine libre.
Les Donatello, en Russie, on ne sait pas comment ça s'appelle.
Les caviars.
Mais en tout cas, en Italie, c'est bien les Donatello. Bravo. Ah, une question historique et sportive pour Hugo Grégoire, qui habite Cotteret, dans les Hautes-Pyrénées. Quel célèbre boxeur, champion olympique d'haltérophilie, parce qu'il a fait plusieurs sports, hein, catcheur, boxe, aussi haltérophilie, champion olympique. En plus, c'est un anniversaire, puisque c'était, enfin, ce sera un anniversaire pour les JO 2024, puisqu'il fut médaille d'or des Milours en 1924.
Charles Rigolo.
Comment vous savez ça?
Ben oui, parce que c'est tout.
C'était l'homme le plus fort du monde.
Et la même. Alors attendez, bravo. Alors, puisque je n'ai pas eu le temps de terminer ma question.
Ça fait deux fois.
Mais vous avez raison, c'est déjà une première bonne réponse de François Berléand.
Bon, maintenant, on devine la question. D'accord?
Voilà.
On arrête tout, on devine la question.
Il fut aussi catcheur.
Oui.
Mais il a gagné une autre célèbre compétition dans un autre sport encore. Lequel? En 1937.
Patin à roulette.
J'entends pas.
Patin à roulette, non.
Judo.
Judo, non.
Dans la lutte,
il est. Un sport de combat.
Alors, un sport de combat, non, justement. Un haltérophile célèbre, médaille d'or olympique en 1924.
Ça, je l'ai dit, ça, c'est vrai.
Oui, je le rappelle. Qui, effectivement, est devenu aussi un homme de spectacle parce qu'il a été chanteur, acteur de théâtre. Il faisait aussi des numéros de main à main avec son épouse gymnaste qui s'appelait Magda Roche.
Elle était belle, elle était belle.
Ce que c'est qu'un numéro de main à main.
Trapèze.
Ah oui, bah merci. Alors, enfin, il faut préciser parce que, excuse-moi, de numéro de main à main, non, réfléchis. Hein
il a été fait prisonnier de guerre en Allemagne, Charles
Rigoulot. Rigoulot, ouais. Ils ont dû se marrer. Hé, Rigoulot!
Après, il a repris le catch après-guerre en 44. Et puis, il a fini directeur sportif chez Cognac Ricard.
C'est normal. Mais il s'appelle Goulot, quand même.
Comme tous les sportifs. Hein.
Mais c'est un sport individuel ou
Mais en 37, donc avant-guerre, il gagne une célèbre compétition.
Un vélo.
Le vélo, non.
Presque le vélo.
Pas presque.
La moto.
J'ai reconnu...
La moto, non.
Un truc qui roule.
Mais effectivement, on n'est pas loin.
On roule dessus.
Et c'est une compétition qui marche aussi bien...
La Formule 1.
La course automobile.
Alors, c'est une course automobile. Laquelle?
Les 24 heures du Mans.
Alors, il a fait aussi les 24 heures du Mans,
mais
il les a pas gagnées, les 24 heures du Mans. Mais c'est vrai qu'il a fait les 24 heures du Mans aussi.
Et il a fait aussi le rallye de Monte Carlo.
Non, il a gagné en 37...
Monza.
Non, ça se passait à Montlhéry à l'époque.
C'est Montlhéry.
La mer de sable.
Non.
Non, c'est Hermenonville.
Une compétition qui est à la fois automobile...
La poly multipliée.
Et moto, d'ailleurs, aussi.
Ah oui. La poly.
Non.
Le bol d'or.
Pardon.
Le bol d'or.
Le bol d'or. Bonne réponse de Liane Folly. Le bol d'or. 111 records du monde de force, poids et haltère. 56 records du monde d'haltérophilie. Alors, il s'est blessé à un moment donné. Ça a été parce que ça a été le seul homme au monde à pouvoir soulever l'essieu d'Apollon. C'est un truc qui fait quand même 166,5 kg.
Ouais, c'est quoi l'essieu?
Comme une
l'essieu.
Entre les deux roues.
L'essieu. Pour tenir les roues.
Avec les deux roues.
Il y a deux roues de wagon de chaque côté qui sont soudées, vous voyez.
Alors qu'il suffit d'aller dans un garage et
ça se lève.
Il y a un truc qui m'a ému quand j'ai dit la mer de sable et que j'ai vu tous les vieux avoir des yeux d'enfant parce que vous savez, nous on n'avait rien quand on était jeune, on n'avait pas les smartphones, mais on avait la mer de sable.
Et alors?
C'était à Hermenonville.
Ouais.
Et quel rapport? Et alors, attends, moi je suis pas né de l'autre côté de la Méditerranée, donc du sable, j'en avais pas vu beaucoup, tu vois.
Oh, ça va.
Et en plus, elle était souvent privée de désert.
On était si heureux quand on nous disait on va à Hermenonville. Et quand je pense que maintenant je me fais chier alors que j'ai tout.
Alors que t'as une sublime maison en Corse.
Tu vas bien
une péniche sur la Seine.
Pour Justine Hoc, qui habite Soissons dans l'Aisne. Une question géographique. Je vais vous demander le nom d'un grand port.
Amsterdam.
Non.
Un port d'Amsterdam.
un grand port russe. Troisième ville d'importance fédérale de Russie.
Vladivostok.
Non. Après Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est la troisième ville d'importance fédérale en Russie.
J'en connaissais que deux.
Une ville située dans le sud-ouest de la péninsule de Crimée que l'Ukraine.
C'est Odessa.
Bah, Sébastopol.
Odessa.
Comment?
Sébastopol.
Bonne réponse. De Monsieur Berléand. C'est bien, Monsieur Berléand. Vous remontez, là, hein, François.
Oui, mais
Berléand.
Pour moi, Sébastopol restera ukrainien.
Eh oui, mais c'est vrai que c'est russe, Sébastopol.
Mais bon, c'est vrai que c'est russe maintenant.
Et justement, j'ai une question historique derrière.
Oui.
Pour Maude Dubois, qui habite Mazières en Gatine.
Réaumur.
Dans les Deux-Sèvres. Bah, vous croyez pas si bien dire? C'est une station de métro. Mais c'est pas Réaumur. C'est le nom d'un général qui est mort à Sébastopol pendant le siège de Sébastopol en 1855.
Cambronne,
non.
Ranelagh.
Ce général, Ce général a reçu une affreuse blessure.
Pourquoi une affreuse?
Parce qu'il voulait voir si les travaux.
Parce qu'il y en a des belles. Non, mais c'est quoi une affreuse blessure?
C'est une blessure dont on meurt, vous voyez.
Ah.
Alors qu'on peut avoir des blessures dont on va réchapper.
Ah.
Mais là, il est dans les tranchées. Et il veut voir si les travaux des Anglais ont avancé. Et puis.
De quoi il sort la tête?
Et oui, exactement. Et voilà, il l'a payé cher. Une balle l'a frappé derrière l'oreille droite. Ah. Au-dessus du palais, et est venu aboutir à la pommette de la joue gauche. et on l'a cru tué sur le coup, et en fait, il est mort un peu plus tard quand même.
Mais c'est en quelle
année? Parce qu'il a une station de métro.
Je l'ai dit,
il a des boulevards.
Il a une station de métro, il est mort à Sébastopol.
Exactement,
je dis. 1855.
Exactement.
Le général Catroux.
Arrête de dire Exactement s'il répond pas, c'est que c'est pas ça.
Il entend peut-être pas.
Il entend tout! Le gars, il entend tout!
C'est Claude François qui est mort, boulevard Exelmans.
Ouais, c'est vrai.
Delpech.
Michel Delpech, vous connaissez?
Vous connaissez... Michel Strogoff.
Écoutez, vous connaissez une station de métro qui s'appelle Michel Delpech?
Non, mais il mériterait d'en avoir une.
Ah, ça, c'est bien dit.
Il y en a voir.
Mais est-ce qu'il a en plus un boulevard, des rues?
Il a une avenue à Paris.
Ah, à Versailles.
Non. Une station de métro avec son nom et son prénom. Je vous ai déjà donné son prénom, c'est pas mal.
Ah, bah oui.
Mort à Sébastopol le 15 avril 1855.
Jasmin.
Michel Jasmin.
On ne sait pas qui s'appelle Michel en
fait.
Si, parce que la station de métro s'appelle Michel aussi.
Bizot.
Ah bon,
Michel Bizot. Bonne réponse de Daniel Picouli.
Franchement. Franchement.
Pourquoi franchement?
Ouais, parce que comme ça, j'ai dit au hasard. C'est là que je suis le meilleur, je crois, dans le hasard.
C'est pas Marcel Bizot?
Ah non, c'est Michel. C'est Michel. Mais si vous voulez qu'on l'appelle Marcel pour vous faire plaisir.
Appelez-moi Marcel. Moi, j'ai toujours appelé Marcel Bizot. C'est pour ça que j'ai pas.
En tout cas, le général Bizot est bien mort à Sébastopol. On va dire que c'est une double bonne réponse. Berléand pour Sébastopol. Michel Bizot, ce sera pour Daniel Picouli.
Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Axel est à Luc-sur-Mer, dans le Calvados. Bonjour Axel.
Bonjour à tous.
Quel temps sur la côte normande aujourd'hui?
Un petit peu de soleil.
Un petit peu de... Vous avez hésité, Axel, hein?
Oui, ben c'est pas flagrant non plus.
Ah voilà, c'est ça.
Flagrant.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Axel?
Je suis assistante de direction dans une entreprise de travaux publics. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter une belle journée à notre patron et à toute l'équipe de chez Baril TP.
Vous avez raison, Axel, une petite augmentation.
Bah oui, patron, c'est vrai. Promotion.
C'est peut-être même avec lui que vous allez partir en week-end d'affaires.
Évidemment.
Grâce à weekendesk.fr.
Avec mon mari.
Ah, avec votre mari, très bien. Avec monsieur le marinier. Comment il s'appelle, vous dites?
Thibaut.
Avec Thibaut, vous pourrez venir nous voir en plus parce que c'est un week-end à Paris qu'on vous propose.
Ah, super.
Oh. Et oui, au Laz Hôtel Saint-Lazare, un 4 étoiles à Saint-Lazare avec un spa, une piscine. Et en plus, vous aurez un dîner excellence, un dîner sur la Seine avec la compagnie des bateaux-mouches.
Alors c'est de la merde ce qu'il donne.
C'est pas chez Christine Bravo, ça.
Oui. Non, soyez rassurés. Vous pourrez rentrer chez vous après. Vous découvrirez Paris par la Seine, sa plus belle avenue. C'est beau, ça, quand même.
Ouais. C'est ce que je dis sur mon bateau Froufrou. C'est la plus belle avenue.
Et ben voilà.
Pourquoi on n'offre pas ça, d'ailleurs?
Ils vont te virer pour les Jeux Olympiques. T'es prévenu?
Et parce qu'on n'offre pas ça, parce que tantôt, c'est vous qui offrez, tantôt, c'est la compagnie des bateaux-mouches, qui, quand même, existe depuis longtemps aussi.
Ouais, ouais, puis c'est vrai, ils sont à la ramasse, ils n'ont pas beaucoup de pognon. Ça vaut le coup de se faire de la pub. Mais enfin, je ne dis rien contre mes concurrents.
Elle est folle. Elle se pense concurrente des bateaux-mouches. Elle est totalement folle. Oui, non, il y a peine à dîner, c'est Christine Bravo. Hein, pas faire le dîner.
C'est vrai qu'il y a plus de mouches sur son bateau que sur les leurs.
Oh, c'est dégueulasse. Alors ça, c'est immonde. Et toi, tu vis, toi. Mon ami, mon frère.
Axel, vous êtes prête?
Oui.
Il faut maintenant miser, parier sur une de mes grosses têtes, celle qui connaît le mieux l'actualité. Vous connaissez le principe?
Oui. Jean Benguigui.
Eh merde.
Jean Benguigui.
Bon, on va commencer par lui. Tiens.
Non, je vais essayer d'éliminer, c'est le principe. Ah. Mon but, c'est de faire gagner les auditeurs. Axel, je vais essayer de vous faire gagner. Alors pour ça, il faut que j'élimine les 5 autres. On est d'accord?
Oui.
Parce que Jean Benguigui est au bout, elle ne le savait pas forcément, ben Axel. Non,
j'en suis à bout et au bout.
Alors, je commence par l'autre côté, je commence par Pierre Palmade. Pierre, oui. Qui est Samuel Gigot.
Mon Pierrot.
Eh ben, c'est celui qui devait partir à la place de Pasquier si Pasquier était tombé malade.
Pesquier, tu veux dire Thomas Pesquier.
Pesquier. Thomas Pesquier.
Pesquier.
Voilà. Pasquier, c'est pas brioché.
Pesquier.
Eh ben, en cas de coup dur, c'est lui qui devait y aller.
Samuel Gigot est un joueur de foot qui vient d'être prêté.
À l'autre Samuel Gigot.
Qui vient d'être prêté à l'OM par le Spartak Moscou.
Oui, oui.
Vous êtes éliminé, monsieur Palmade.
Vous parlez du plus célèbre.
Liane Folie, pouvez-vous me dire qui est Catherine Pégard?
Elle s'occupe pas du château de Versailles.
Excellente réponse de Liane Folly.
Bah oui, j'ai très bien connu Catherine Pégard, d'ailleurs, quand elle était.
Elle est présidente du château. Elle est présidente du château de Versailles.
Oui, absolument.
Et elle s'apprête à quitter ses fonctions.
Oui.
C'est Emmanuel Macron qui désignera celle ou celui qui lui succédera à Catherine Pégard à Versailles. Ah, et ça, c'est mauvais pour vous, Axel. Liane Folly est pour l'instant qualifiée. Je vais demander à monsieur Picouli, qui était Jacques Abeille.
Il a inventé un type de miel, un nouveau miel pour Pesquet, parce que Pesquet a dans l'espace des abeilles.
Il vient de nous
quitter. Oui, voilà.
Jacques Abeille était un écrivain surréaliste. Oui.
Que... Bah c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire.
Écoutez, monsieur, j'ai essayé de vous aider là, monsieur Picouli. Oui. Il a écrit Les Barbares, Les Jardins statuaires, et il y a tout un papier dans le Figaro aujourd'hui pour saluer la mémoire de cet écrivain surréaliste et mystérieux. Les Jardins statuaires, Le Veilleur du jour, Les Chroniques scandaleuses de Térèbres et Les Barbares. Voilà autant de livres écrit par Jacques Abeille, dont on salue la mémoire, mais qui vous élimine, monsieur.
Bah, vous connaissez ma force dans les questions littéraires.
Monsieur Berléand, François Berléand, pouvez-vous me dire, cher François Berléand, qui est Jean-Claude Galota?
Bah, c'est Jean-Claude Galota, c'est le frère de...
Tu peux prendre un air intelligent et éveillé.
Oui, alors Jean-Claude Galota, évidemment, est un réalisateur de cinéma.
Ah oui.
Mais qui a fait d'autres métiers aussi.
C'est un danseur chorégraphe de 71 ans.
On n'est pas loin.
Il a 71 ans, mais il danse encore, Jean-Claude Galota.
C'est pas brillant. Croyez-moi, c'est pas brillant.
Il est au Théâtre du Rond-Point, alors croyez-moi.
C'est pour ça que j'ai pas voulu en faire plus.
Il est au Théâtre du Rond-Point, il danse très bien, Jean-Claude Galota.
Non.
Il est chorégraphe.
J'ai vu le spectacle, c'est une honte.
Je ne vais pas dire ça. Il est jusqu'au 20 février au Théâtre du Rond-Point,
oui,
Jean-Claude Galota.
Il vit encore.
C'est un brillant danseur, chorégraphe.
C'est vrai en plus. Il était à Grenoble. Non mais c'est vrai. Je m'en souviens maintenant, il était à Grenoble.
C'est dommage quand même.
Il était au centre de la danse de Grenoble.
Il était directeur de la maison de culture de Grenoble.
Vous pouvez regarder. Oui.
Madame Bravo, c'est à vous maintenant.
Attention.
Pouvez-vous me dire, Christine Bravo? Non, vous êtes éliminée, monsieur Berléand. Madame Bravo qui est Joe Rogan. Ouf.
Alors, c'est un pape.
Un pape
ou un curé, ou... Enfin, il est dans les ordres.
Ah non.
Ah
non.
Non.
C'est
non.
Une star sulfureuse des podcasts anti-vax qui embarrasse Spotify. Il y a de nombreux chanteurs qui se retirent de Spotify.
Oh non, écoute tout ça.
Je tiens à dire que moi aussi, j'ai enlevé toutes mes chansons de Spotify.
Vous êtes éliminée, Christine. Jean-Benguigui.
C'est moi.
Qui est Françoise Mabille.
Oh oui.
Bah, c'est la sœur, hein.
C'est la sœur.
C'est la fille de Bernard Mabille. La fille aînée.
Françoise Mabille. Il y avait des papiers partout sur elle hier, Françoise Mabille. À l'occasion d'un film qui sortait dans les salles de cinéma. Françoise Mabille.
C'est une réalisatrice de cinéma.
Pas du tout.
Et une actrice.
Non plus. C'est la première femme sapeur-pompier officiellement reconnue en France.
Ah bah ouais, elle est comme son père.
Oui. Comme l'héroïne du film Vaillante qui est sorti hier. Françoise Mabille vous élimine, monsieur Benguigui. Et je suis désolé pour Axel, ce sera une montre RTL seulement, Axel.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Daniel Picouli, Liane Folly, Pierre Palmade, Jean-Benguigui, François Berléand et Christine Bravo. À une question musicale, c'est un opéra qu'il faut retrouver maintenant, le nom d'un célèbre opéra, en quatre actes si ça peut vous aider.
Don Juan.
Créé à la Scala de Milan, c'est pour Aurore Isler, des Anvilles que nous jouons à la Bicleval d'Oise. Mm-hmm. Cet opéra a été créé en 1892 à la Scala de Milan. À l'origine d'ailleurs c'était un roman, une pièce de théâtre, mais ça je suis pas sûr que ça vous aidera beaucoup parce que la pièce de théâtre et le roman étaient signés Wilhelmine von Ilern, vous voyez.
Quand même, la porte du destin.
L'action se passe dans un village tyrolien, le père de l'héroïne a choisi évidemment pour sa fille un parti dont elle ne veut pas, mais Il y a un air célèbre dans cet opéra, une chanson célèbre qu'on appelle d'ailleurs la chanson groenlandaise. célèbre chanson qui fut utilisée dans un film de Jean-Jacques Benex. Comment s'appelle cet opéra?
Eh ben, c'est dans Diva.
C'est dans Diva.
Oui, absolument.
Bravo, Liane.
C'est un opéra italien?
Non. Alors, oui.
Autrichien.
Oui.
Le compositeur est italien.
Absolument. Bien
c'est Bellini? C'est Bellini?
Bellini, non.
Il est connu, votre mec?
Alors, le compositeur s'appelle Alfredo Catalani.
Et qu'est-ce qu'il vous
demande? Catalani.
Qu'est-ce qu'il faut dire, en fait?
Alfredo Catalani.
Ou le titre de la chanson?
Le titre de l'opéra. Ah oui, on dit toujours, tiens, ça, c'est l'air de...
De Diva. Du Groenland.
On dit aussi, ça, c'est la chanson groenlandaise. À l'origine, c'est comme ça qu'on l'appelait. Mais on dit surtout, tiens, ça, c'est l'air principal de...
Paul Nord,
non.
C'est joué. C'est un opéra qui est joué rarement.
Ah, ça se joue quand même. Puis surtout, grâce au film de Benex, Diva, c'est vrai que c'est un air, d'abord, que vous allez forcément reconnaître, là, quand on va l'entendre, évidemment. Et c'est l'héroïne, d'ailleurs.
Oui, c'est un prénom de jeune fille.
Alors, un prénom pas souvent utilisé.
Gertrude.
Hein. Ouais, c'est ça.
Gertrude,
mais non.
Pourquoi il n'est pas souvent utilisé?
C'est italien, c'est un prénom italien.
Un prénom italien plutôt.
Bah non, parce
pas du tout, non, parce que le livret est.
On est dans un village tyrolien.
Oui, tyrolien,
voyez.
Donc.
Brunhilde.
Donc, Françoise.
L'histoire se déroule au Tyrol autrichien.
Oui, ça, on a bien compris.
Je vais pas vous donner son nom, hein. Est vulnérable, amoureuse.
Eva, c'est pas Guillaume Tell.
Elle est amoureuse de l'ennemi de son père, vous voyez. Oh c'est...
Aïda?
Ah, non. Alors, il y a un concours de tir qui est organisé.
Concours de tir. Bertha.
Par le père de 1-1 à l'occasion du 70e anniversaire de Strominger.
Natalia Itou.
Il y a une partie de chasse qui arrive du village voisin de Solden, dirigé par Hagenbach. Il y a des vieilles inimitiés qui refont surface. Vous voyez ce que c'est entre les deux villages.
Ben, on connaît pas du tout le truc.
Des insultes, des menaces.
Vous voyez,
là, il y a un type du village d'à côté qui est amoureux de... vous voyez
Helmut.
C'est Helmut qui est amoureux.
Alors, ils vont après à la taverne de l'aigle.
Ah oui, c'est une chanson à la, la bière. Ils boivent et ils chantent.
Il y a
un chœur dans cette chanson.
Il y a un an qui est passé entre temps, vous voyez. Puis elle a hérité de la fortune
de son père.
Voilà.
La fortune de son père ou de sa mère?
Non, de son père.
De son père, ça change.
Ah oui, mais on cherche un prénom, là.
On cherche un prénom.
On cherche surtout le titre de l'opéra
le
très
titre
célèbre.
De l'opéra, mais
qui est un prénom.
Pas seulement un prénom.
Pas seulement
non, c'est côté.
Il y a quelque chose de votre prénom. Vous connaissez, hein, parce que moi je connaissais.
Mais oui,
et
mais
franchement,
moi
je suis pas doué en opéra, alors pour que je connaisse, forcément vous connaissez.
Mais oui, c'est dans Diva.
C'est dans Diva, on dit. C'est l'air de.
Mais oui.
Toréador.
Aïda.
Non,
il y a Toréador.
Après, les amoureux se réconcilient, vont dans les montagnes, vous voyez.
C'est pas si comme Heidi.
Mais ça se termine mal parce qu'elle va se mettre à crier et le bruit de son appel va déclencher une avalanche.
Oui.
C'est le drame de...
Et qui va l'emporter. Elle reste un moment au bord du précipice avant de se lancer dans le vide, vous voyez.
Putain de truc.
C'est un rôle pour une soprano, vous voyez.
Oui.
Bien sûr.
Et on va entendre cette air...
L'air de Wally.
Oui, mais comment s'appelle l'opéra?
Wally. Il s'appelle... Moi, j'ai connu ici la parole, et c'est quand Wally, elle chante, l'opéra, elle s'appelle Wallou. Wallou.
Non mais vous l'avez là l'opéra.
Ça s'appelle Wally.
Non, il y a un mot devant Wally.
La Wally.
La réponse de Christine, bravo.
Alors là.
La Wally. Et voici l'air.
On le connaît, bien sûr.
Voici l'air de la Wally.
Ben c'est pour ça. Ah ouais, c'est magnifique.
Ben oui.
C'est qu'on appelle aussi la chanson groenlandaise. Oui.
Vous connaissiez Berléand, l'air de la Wally. Pardon ?
La Wally, la Walla. Oui, non, mais j'ai bien vu.
La Wally, la Walla. On vient d'économiser 300 euros. Ouf.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Franck est au téléphone à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados. Bonjour Franck.
Bonjour Laurent.
Qu'est-ce que vous faites là-bas?
Bonjour les grossettes.
Oh, ben, les grossettes vous saluent. Qu'est-ce que vous faites en Normandie?
Oh ben pour l'instant pas grand-chose.
C'est-à-dire?
Je cherche un emploi pour le moment. Donc, voilà, j'ai un
pour le moment ou pour le reste de votre...
Enfin, je suis un petit jeune de 50 ans, donc il me reste encore quelques années à travailler.
Ah, quand même, hein, dites donc. Bah oui, il faudrait vous y mettre. Hein.
Oui, oui.
Non, mais l'autre,
mais
il
vous
dit...
Faisiez...
L'avec, l'autre, il est au chômage. Il est au bord du suicide. Ah, bah quand même, hein, va falloir vous y mettre.
Non,
hein.
Non, je suis au bord
traverser
de la mer.
La rue, il y en a du boulot de l'autre côté de la rue.
Non, mais il n'a pas l'air soucieux.
Il dit qu'il est au bord de la mer.
Il a pas
de la
mer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas l'air inquiet, vous voyez.
Ah, non, non.
Non, pas du tout.
Voyez, voilà.
Et qu'est-ce que vous savez faire, sinon? Non.
Ah, je suis acheteur dans l'industrie.
Ah,
donc
d'accord.
J'achète des matières premières, des composants, et puis pour la production.
Voilà,
très bien.
Comme il n'y a plus, voilà, on n'en vend plus, donc vous n'achetez plus.
Bah, il n'y en
non,
a
voilà,
plus,
c'est
surtout.
Ben voilà, Franck. De toute façon, écoutez, Franck, peu importe,
oui.
Tout ça oui. Vous regarde, c'est votre vie. Hein.
Oui, exactement.
Vous
allez faire
la cerise.
Avec vous aujourd'hui.
Et oui, et d'autant qu'on va peut-être vous offrir des meubles.
Non.
1500 euros de meubles.
Comment
ah, meubles.
Bah, c'est bon, ça.
Ah oui, sur h.fr.
Qu'est-ce que t'as pour 1500 euros comme meubles?
Ah bah, il y a des canapés.
Canapé. À 1500 euros le canapé.
Bah oui, des luminaires.
Je m'assieds. Ben non, bah dis donc. Mais c'est une planche à clous.
Pas du tout. Il y a des
un frais. Fauteuil.
H&H.
C'est bourré avec des noyaux de pêche. Arrête.
H&H, c'est les plus beaux meubles au plus bas prix.
Voilà.
Alors vous trouverez de très beaux canapés, de très beaux luminaires,
à bas prix.
De la décoration à bas prix. Il y a 70 points de vente. Puis alors là, vous pouvez vous,
oh
en plus, même pas obligé de vous déplacer. Hop, en un clic sur H&H.fr, vous trouverez vos 1500 euros de meubles. À condition de trouver d'abord, quand même, qui a donné la bonne information. C'est le principe, vous le savez.
Oui, tout à fait. Par contre, je voulais savoir, Christine Bravo, elle a pris son traitement, là.
Mais de quoi je me mêle?
Elle a un petit traitement, vous savez.
D'accord.
Franck, vous écoutez bien les six grosses têtes. Une seule va vous donner une vraie info, les autres vont vous mentir. On commence
d'accord.
Par Jean Benguigui.
La société Orpea vient de dévoiler son nouveau slogan pour relancer ses maisons de retraite. L'EHPAD, l'EHPAD. Oui, mais l'euthanasie.
Tiens, on va enchaîner avec François Berléand.
À 2% dans certains sondages, Anne Hidalgo va tenter de relancer sa campagne en descendant dans le métro et en passant entre les rames avec un nouveau slogan. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît.
Daniel Picouli.
C'est raciste.
Ralliement du Rassemblement National vers Éric Zemmour. Marine Le Pen a engagé 3 vigiles pour surveiller ses chats de peur de les retrouver sur le canapé d'Éric Zemmour.
Monsieur Palmade.
Alors, le journal Le Monde va pouvoir titrer Monica Vitti est remorte. Puisque le 4 mai 1988, ils avaient annoncé son suicide à l'âge de 56 ans. Elle souffrait d'Alzheimer et ne s'est donc pas souvenue qu'elle était déjà morte il y a 34 ans.
Yann Folli.
L'association de lutte contre l'homophobie a déposé une plainte hier contre Olivier Véran, après que le ministre de la Santé ait déclaré « Le pire est derrière nous ».
Christine Bravo pour terminer.
Elle est là. Multiplication des meetings en plein air pour Yannick Jadot. Après s'être fait chier dessus par 8 pigeons, 4 étourneaux et 6 mouettes, le candidat écologiste a finalement décidé de se rapprocher des chasseurs.
Alors, qui a dit la vérité? Il y avait une bonne info dans tout ça, Franck.
Il y avait une bonne info. Pierre Palmade a dit quoi?
Redites-le alors pour Franck.
J'ai dit que le journal Le Monde va pouvoir titrer « Monica Vitti est remorte ». Puisque le 4 mai 1988, ils avaient annoncé son suicide à l'âge de 56 ans. Elle souffrait d'Alzheimer et ne s'est donc pas souvenue qu'elle était déjà morte il y a 34 ans.
Alors,
je dirais que ça serait la plus crédible par rapport à toutes celles qui ont été annoncées.
C'est pas faux, ça paraît étonnant, mais c'est la plus crédible. Et c'est la bonne information,
ouais
Franck. Et oui,
vous avez annoncé.
C'est vrai que Éric Zemmour a pas encore capturé les chats de Marine Le Pen. Ça peut venir, mais c'est pas encore fait. Anne Hidalgo n'est pas encore, mais ça peut venir aussi, mais n'est pas encore dans le métro en train de se balader. Faire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Votez pour moi, s'il vous plaît. Liane Folly est le pire est derrière nous, Liane Folly. Mais non, enfin, voyons. Quant aux mouettes, c'est vrai qu'il fait des meetings en plein air, Yannick Jadot, c'est ce qu'il a annoncé. Et puis, le slogan de Jean Benguigui, vous me le refaites une fois, le slogan de l'Orpea, vous l'avez bien fait, Jean.
L'EHPAD, l'EHPAD, oui mais l'euthanasie.
C'est vrai que c'est bien. C'est bien. Non, la vérité, c'est bien que Le Monde avait effectivement déjà annoncé la mort de Monica Vitti. Vous vous rendez compte, en 88, hein, 1988, ils avaient annoncé qu'elle s'était suicidée. Et puis bon, bah évidemment, c'était faux. Et ou alors c'est que vraiment, elle a mis du temps à chuter du balcon. Mais non, 34 ans plus tard, ça y est, elle est vraiment... C'est rare quand on utilise...
Donc c'est moi qui gagne hier, Jean ?
Ah non.
Tu gagnes pas de l'argent, tu gagnes un canapé en pot de somme.
En tout cas, vous faites gagner des meubles à Franck, Pierre.
Oui, marche.
Et effectivement, c'est triste à dire, mais Le Monde va pouvoir titrer Monica Vitti est re-morte. Bravo Franck, vous avez gagné.
La valise.
La valise RTL, je pense que Pierre Palmade l'a bien mérité.
Oui.
D'abord, Pierre n'est pas venu nous voir depuis longtemps. Il vient de trouver une bonne réponse grâce à Véronique Sanson et son contraptonyme. Et vous allez, cher Pierre, appeler un de nos auditeurs ou une auditrice. Il y a deux choses dans la valise, en plus des 1018 euros de départ. Christine, voulez-vous donner un numéro de 1 à 20 pour Pierre ?
Oui, 1, mon bébé.
1, le numéro 1. Nous allons appeler Jérémy Bax.
Non, Bax, j'ai appelé. Bax. Oui. Jérémy Bax.
Il habite Touques, dans le Calvados.
Il habite où ?
Jérémy Touques. Bax, vous avez une photo ?
Où t'habites à Touques ?
Bax, 86.
C'est près de Deauville. Deauville, Trouville, Touques.
Je ne pas connaître Deauville.
Touques. Juste quand, avant d'arriver à Deauville, Touques.
Bon, vous savez quoi ?
Allô ?
Oui, allô ?
Oui, bonjour. Jérémy Bax ?
Oui, c'est lui-même. Tout
bonjour,
à fait.
Bonjour. Excusez-moi de faire cet appel sous forme de petit jeu, mais est-ce que vous pensez savoir qui vous appelle ? C'est une. C'est pas une mauvaise blague, hein ? Ça devrait être une bonne surprise, normalement.
Vous ne reconnaissez pas la voix ?
Non, je ne reconnais pas. C'est pas les grosses têtes, ne disent pas
si,
ça.
Si, c'est les grosses têtes.
Oui, c'est les grosses têtes. Une qui vous appellent, Jérémy.
Alors, voilà.
Pourquoi vous rigolez, Jérémy ?
Est-ce que vous voulez écouter ?
Je suis surprise, en fait, je vous explique pourquoi, parce que je m'y attendais pas du tout, car...
En général, c'est comme ça
général,
quand
t'es sur... Ouais, non, mais je vous écoute toute la journée, parce que je travaille dans mon taxi pour une société d'ambulance, et puis là, j'ai chopé le Covid, donc je suis en isolement. Voilà, c'est magnifique, je viens d'aller faire mon deuxième test, là, pour savoir si j'ai le droit de ressortir.
Et alors ?
Et paf, il n'y a pas le mat qui vous appelle.
C'est Pierre Palmade qui vous appelait. Vous n'avez pas reconnu Pierrot ?
Ben non, j'ai pas reconnu Pierre.
C'est le Covid.
Bonjour. Je suis extrêmement heureux de vous avoir au téléphone.
Et voilà. Le test.
Je ressors de la pharmacie, j'ai le résultat par téléphone dans 30 minutes.
Oui, on a bien compris, voilà. C'est...
Alors ça va.
On a bien compris, c'est une journée de merde. Mais...
Oui, tout à fait.
Mais on va essayer de l'ensoleiller. Est-ce que vous avez, par hasard... Par chance pour vous, le montant de la valise RTL.
Mon cher Pierre, ça fait 4 jours que malheureusement j'écoute pas la radio parce que je suis couché avec...
Ça touche pas les oreilles, hein ?
Attendez, je me suis arrêté.
Mais c'est
moi,
parce
que...
Il nous écoute plus parce qu'il peut plus nous sentir.
Si, l'odorat, ça va encore.
Ah bon, alors ça va, alors très bien. Bon, bah, je suis désolé, mais... alors. Vous,
Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis content. Je suis content de vous avoir.
Non, mais c'est une mauvaise période, c'est tout. Hein.
Non, il n'y a pas de souci. Il y a pire dans la vie. Hein.
Vous venez de rater 1018 euros.
Arrête.
Une caméra connectée de sécurité pour éviter les cambrioleurs à la maison. Le livre Crime et mystère de Paris de Paul Elkarat.
Oh ouais, il est bien en plus ce livre.
On va vous envoyer une montre RTL.
C'est gentil, Laurent. Merci beaucoup.
Bah oui, ça fait...
Il est pas là, Sébastien Thoen?
Ah non, non. Aujourd'hui, il est pas, il est au repos. Au repos. On le met au repos de temps en temps. On alterne. Un jour avec, un jour sans. Et on met au repos nos auditeurs aussi, comme ça, en même temps. Vous voyez?
Oui.
Mais il n'y a que des gens inconnus aujourd'hui.
Vous avez qui avec vous sur le plateau?
Ah bah, Pierre Palmade, que vous avez entendu. Vous aimez bien, Pierre Palmade.
Christine Bravo.
Christine Bravo.
Bonjour Christine.
Bonjour. Liane Folie, vous connaissez Liane Folie?
Bonjour.
Oui, bien sûr, bien évidemment. Bonjour Liane.
Bonjour à vous.
Vous aimeriez qu'elle vous chante quoi, Liane, pour vous faire plaisir?
Pour vous faire guérir.
Pour vous faire plaisir ou pour vous faire guérir? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle veut?
Non, ce que vous aimez. Vous aimez quoi comme chanson?
Angelina, vous connaissez?
Angelina, les gâteaux, le chocolat?
Non. Oui. Le monsieur te dit qu'il veut pas de chanson à toi.
Ah, c'est pas grave.
Non, moi, je suis très très on m'a dit de choisir. Donc,
ah ben, voilà. Choisi. Alors, mais je peux pas vous chanter ça. C'est quoi? Je connais pas.
Vous connaissez pas ça?
C'est Farewell, Angelina.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la régie, là? Et Laurent, vous
le mec, il a pris ses aises, hein.
Il m'a pris.
Tu lui as donné ça, il prend ça tout de suite.
Vous m'avez pris pour un karaoké?
Bon, alors, quand est-ce que vous reprenez votre taxi d'ambulance, là?
Dès que je serai plus positif.
Et ben voilà.
Oui, tant qu'à faire.
Vous avez quel âge?
39 ans.
39 ans. Vous venez de rater, en tout cas, effectivement, Billy, 18 euros. On vous envoie une montre RTL. Et j'ajoute dans la valise RTL, pour ceux qui peut-être joueront demain, vendredi, une Walk Machine dynamique. C'est M6 Boutique qui vous offre ce tapis de marche.
Ouais.
C'est un tapis de marche ultra compact avec deux bras latéraux.
Mais non.
Oui.
Ah oui.
Comme ça, vous pouvez vous tenir en marchant.
Ah, ça s'appelle des cannes.
C'est un appareil qui permet de travailler le haut du corps également. C'est une grande innovation fitness, car le tapis de marche est motorisé, équipé de deux bras littéraux.
Ça ne fait rien, là.
Tu fous rien.
Si, ça vous permet de profiter de tous les bienfaits de la marche sportive et du vélo elliptique afin d'entretenir votre forme et votre bien-être quotidien directement chez vous, sans contrainte, sans avoir besoin de sortir, vous voyez.
Et rajoutez une photo de moi pour qu'on voit qui lui a parlé.
Grâce à ces deux roulettes à l'avant, la Walk Machine se range facilement sous un lit.
Ah, il faut avoir un lit en plus. qui n'est pas fourni par la machine.
J'ajoute la Walk Machine dynamique, le tapis de marche offert par M6 Boutique dans la valise RTL. Une question pour Mehdi Benhamar, qui habite Bouillargues dans le Gard. Et la question concerne ceux qui aiment la chanson. Là, Pierre Palmade et Liane Folie, vous allez être privilégiés. Puisqu'il s'agit de retrouver le titre d'une chanson qui est le plus célèbre tube d'une chanteuse, hélas, disparue à l'âge de 75 ans, il y a maintenant près d'un an et demi, presque deux ans, Claudine Coppin. Claudine Coppin, elle faisait partie des yéyés. Ça vous paraît peut-être surprenant, mais elle a fait 2-3 tubes à l'époque des yéyés, à l'époque de Salut les copains, et justement, elle s'appelait comment? Copain.
Elle s'appelait comme Salut les copains.
Elle s'appelait Coppin comme Salut les copains, sauf que ça s'écrivait pas pareil, ça s'écrivait C-O-P-I-N.
Bien sûr.
Et Claudine Coppin a eu un énorme succès avec une chanson composée par Guy Mardel en 1963. Elle a même joué avec Philippe Noiret dans une comédie musicale qui s'appelait Un métier en or.
Je moque de vous, Laurent. Oui, non. Berléand. Tu marmonnes en faisant.
Il marmonne pas, il bougonne.
Non, il dodeline.
Vous avez connu Claudine Coppin, hein, monsieur Berléand?
Pas personnellement, mais je j'ai suivi beaucoup de sa carrière.
Elle est partie en Espagne après, dans les années 60. Elle a été mannequin, présentatrice télé. Elle a d'ailleurs tourné avec la star du cinéma espagnol, José Luis López Vázquez. Dans, je sais pas comment on dit 40 en espagnol.
40
grados a la sombra. Mais comment s'appelait sa célèbre chanson?
La chanson à Coppin?
Non.
Non, mais je vous demande, c'est une question que je vous pose.
Oui, chantée par Claudine Coppin.
La chanson à Coppin?
Oui, la chanson à
deux copains.
Toi, mon bon copain. Elle est morte à 75 ans, là, en 2020, vous voyez.
Mais comment on peut se trouver la...
Parce que c'est assez facile, parce que c'était l'époque des yéyés.
D'abord,
qu'est-ce qu'on chantait? Qu'est-ce qu'on dansait à l'époque?
Le twist.
Le twist.
Bravo.
Alors, c'est un twist à Saint-Tropez.
Twist à Saint-Tropez.
Alors, pas twist à Saint-Tropez.
Twist. Twist.
Mais il y a twist dedans.
Il y a le twist.
Le twist des copains.
Twist à Ramatuelle. Twist à Ramatuelle.
Mais non.
Tu approches.
Il y avait twist SNCF.
Le twist du dentiste.
Du dentiste.
Non, c'est le blues.
Le blues, hein, c'est le blues. C'est le blues.
C'est Guy Bardel qui avait composé cette chanson.
N'avoue jamais.
Non.
Ben, c'est... Si, il a composé N'avoue jamais. Je suis désolé.
Oui, oui, c'est vrai.
Mais non, c'est Françoise Dorin, ça.
Oui, oui, mais elle, elle a fait les paroles.
Françoise Dorin.
Est-ce que c'est un nom de ville?
Après twist.
C'est pas le twist des copains, tout simplement.
Non, ça, c'est une bonne question, monsieur. Mais hélas.
Non.
Non.
Non, mais c'est. J'aime bien poser des questions.
C'est une région.
Pardon?
Une région?
Twist d'une région? Non. Réfléchissez un peu. Hein.
Quoi? Bien sûr, mais on va.
Twist des copains, non?
Des jeunes!
Le twist des copains.
C'est des jeunes. Les yéyés.
Les yéyés! Le twist des yéyés.
Comment j'ai trouvé cette question?
Oui,
je vous dis, hier soir, il y avait un excellent documentaire sur Salut les copains.
Ah ouais.
Que vous avez peut-être regardé. On voyait Sheila, Françoise Hardy, Johnny Hallyday. C'était très réussi. L'époque de Daniel Philippaki, de cette émission, de ce magazine Salut les copains. Et effectivement, moi, je l'avais oublié, cette chanteuse qui s'appelle Claudine Coppa et qui chantait Twist, le Twist.
Twist à
des
Moscou.
Copains, le Twist des yéyés.
Il y a eu d'ailleurs le Twist du canotier, souvenez-vous.
Oui, bah, oui. Chaussettes noires.
Chantait par
Maurice Chevalier.
Les Chaussettes noires et Maurice Chevalier. Mais là, Claudine Coppa, elle, elle chantait le Twist du.
Ah, du rock'n'roll.
Du rock'n'roll, non.
Non.
Non, c'est du.
Le twist du lycée, il y a ça un rapport avec l'école?
Oui,
ça
a un rapport avec l'école.
Je suis sûr, ça.
Le twist de la sortie.
Le twist buissonnier.
Le lycée. Non, non, non.
Le twist du lycée, non, on se rapproche.
Le twist de la du collège, du collège.
Regardez Pierre Palmade qui réfléchit.
Le twist du.
D'un seul coup, il se dit je
du peux. Professeur, le twist du professeur.
Non. Le twist du.
Le twist du professeur.
Le twist du proviseur.
Du proviseur, non.
De la, du pensionnat.
Non.
Non. Le
on
twist
est
de la récré.
L'école.
Le twist de la récré.
Ah, non. On est autour de l'école, oui.
Du
oui.
Professeur. La récréation, non.
C'est les jeunes, c'est les yéyés, ils ont 16, 17 ans. Vous voyez, ils commencent à chanter. C'est
le twist du proviseur.
Du proviseur, non.
Le twist du prof de maths. Le twist,
salut les copains.
Des vacances.
Non, il y a les parents qui râlent derrière.
Pourquoi ils râlent
le
les parents?
Le twist du TEPAD, de l'électrophone de.
Non, c'est dû.
Du
boucan,
le twist du jeudi.
Non, elle a enregistré 3 Super 45 tours.
Ouais, la Super 45
à l'époque.
Oui, je me souviens très bien, mais.
Rêver d'un garçon, vous les garçons. Voilà.
Du flirt.
Avec toi, ma vie commence.
Ah ouais, c'est super.
C'est pendant les vacances.
Il y avait des textes, des textes magnifiques.
La première fois.
Du patronage.
Du petit copain.
Remets-nous la danse.
Du premier flirt.
Mais que des succès.
Non, les parents.
Le twist du bisou, le twist du flirt.
Ne va pas danser.
Non, mais les parents.
Ne t'en va pas sans moi.
Non, il faut rester sur l'école.
Pop, 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 paille.
Ah ouais.
Saint-Trope Express.
Gros talent quand même.
Qu'est-ce qu'il y a à l'école? Qu'est-ce qu'on fait à l'école?
Ah ben voilà.
On travaille. Le twist du travail.
Non, non.
Le twist de la colle. Le twist de la rédaction.
Non, non. On brûle.
Le twist de la pièce de la rédaction.
De la punition.
Qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes à cette époque-là?
Ils fumaient en cachette. Ils niquaient dans les
musiques. Ils faisaient de la mobilette.
Ils écoutaient de la musique, ils dansaient.
Ils se droguaient.
Mais ça a un rapport avec l'école, je vous dis.
Je propose le twist du bac.
Le twist du bac. Bonne réponse de Jean. C'est le twist du bac. Mais oui, enfin, voyons, le
évidemment,
twist du bac.
Oui. Alors, c'est ce que j'ai dit, jamais entendu parler.
Alors, quand on dit baccalauréat, on n'a pas bon. Voilà.
Dit, moi,
vous voulez
dit.
Écouter le twist du bac?
Ah, bah, oui, oui, oui,
avec grand plaisir.
On vient m'appeler, mais vous faites une partie. Désolé, je reste bon genou. Vraiment, non, je ne peux pas. Moi, j'ai le bac dans un mois. Je les vois voir et danser.
Mais c'est bien de folie.
Ils n'ont pas le bac à potager.
Tu comprends pourquoi elle s'est tirée en Espagne après
moi. Je t'en lui sers.
Elle était recherchée là.
Elle a ouvert un camping à Barcelone.
Pense à mon chéri. Et ton poteau là sur mon lit. Je me donne, il pense tout bas. Que j'ai le bac dans un mois.
Le twist du bac. Les parents adoraient cette chanson. Bah oui. Disaient, passe ton bac d'abord.
Bah oui.
Voyez le twist.
Mais personne ne connaît cette chanson.
Personne.
Grâce à moi, vous connaîtrez le twist du bac de Claudine Coppin. Vous allez me donner, ça vous pouvez trouver un bon exemple, Pierre Palmade. Ça c'est une question pour vous, parce que vous voyez, le hasard fait que je m'aperçois que vous pouvez trouver un exemple.
Je m'aperçois que vous êtes
ça,
là.
Ça me met que de la pression.
Pour Angélique...
Oui, oui. Un verre d'eau pour avoir de la salive.
Pour Angélique Cadouche, qui habite Cormoz dans l'Ain. Pouvez-vous me donner un exemple de contraptonyme?
C'est un médicament.
Noir et blanc.
C'est un médicament. Ah non, non, noir et blanc, c'est pas un contraptonyme, non.
Un français, un exemple de phrase française, c'est ça?
C'est un mot?
C'est une forme de grammaire, c'est ça?
Non, non, c'est pas de la grammaire. Je peux vous donner plein d'exemples de contraptonyme.
Ah oui. Comment vous écrivez ça?
C'est une figure de style.
Comme contre.
Oui.
Aptonyme.
Contraptonyme.
Tonyme, tonyme. Contraptonyme. Si vous savez ce qu'est un aptonyme, vous saurez ce qu'est un contraptonyme.
C'est quelque chose qui est une chose et son contraire.
Non.
C'est un genre de mot.
Oui.
Une locution.
C'est un mot, un nom, un genre de mot, oui.
Oui, c'est un somnifère.
Non. Et alors, croyez-moi, parmi les exemples de contraptonyme, il y en a un célèbre qui vous touchera particulièrement, monsieur Palma.
C'est pas une contrepétrie.
C'est drôle parce que je vois parmi les exemples qui sont donnés, pile poil un truc vraiment qui est lié à vous directement.
Ah bon. Alors,
le grand restaurant.
Non.
Un mot. Scrabble, Muriel Robin. Véronique Sanson.
Vous en avez donné un. Ah. Vous venez d'en donner un contraptonyme.
Scrabble. Véronique Sanson, c'est un contraptonyme.
Scrabble.
Scrabble, non.
Muriel Robin.
Muriel Robin, non.
Véronique Sanson.
Véronique Sanson, oui. C'est un contraptonyme.
Bah, c'est une ex-femme, alors.
Bonne réponse.
C'est pas une Qu'est-ce qu'un contraptonyme?
Eh ben, c'est comme un homonyme. C'est pas l'homonyme, mais c'est justement le contraire. Ça veut dire que c'est quelqu'un que ça. C'est le nom de quelqu'un qui existe réellement. Sanson.
Oui.
Sanson.
Oui.
C'est un héros.
Ah,
de la mythologie.
Un homonyme d'un héros, ce serait un contraptonyme.
Oui.
Pas du tout.
Ah bon. Non, mais peut-être que c'est
masculin, féminin.
C'est contre ce que ça veut dire. C'est contre ce que ça veut dire. C'est Véronique qui chante s'appelle Sanson.
Excellente réponse.
Oui, bien sûr.
Ah, voilà. Excellente réponse de Pierre Palmade.
C'est un sens opposé à la personne
qui dit le contraire.
Un aptonyme, c'est par exemple monsieur Leboeuf qui est boucher, monsieur Cheveux qui est coiffeur, monsieur Monoeil qui est opticien, et ainsi de ça, c'est des aptonymes.
Ouais. Et Christine Bravo, c'est un contre-aptonyme.
Oui, c'est vrai.
Et effectivement, c'est amusant parce que contraptonyme, ça désigne l'inverse, un nom de famille qui n'est pas approprié à la profession exercée. Et parmi les exemples donnés, le premier exemple d'ailleurs, c'est la chanteuse Véronique Sanson, la psychiatre Roselyne Barjot et l'avocat André Perpète. Voilà des exemples de contraptonyme.
J'ai un point.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Merci d'avoir patienté, invité mystère. Vous allez bien?
Très bien, merci.
Ah, la voix est déformée. Il faut peut-être la déformer un peu plus encore.
Oui, parce qu'on sait qui c'est là.
François Berléand.
C'est vrai?
Non, il ne sait pas qui c'est.
Mais non, évidemment que non.
Allez-y, vous me direz, moi je la connais. Et je sais qui c'est, alors c'est normal que je la reconnaisse. Mais
c'est une fille alors?
Oui, c'est une femme.
Ah, tu vois, t'as
Est-ce que vous êtes une actrice?
Eh oui, encore une étrangère.
Une actrice étrangère?
Théâtre?
Absolument.
Est-ce que vous avez des enfants?
Absolument.
Combien d'enfants?
Deux
enfants.
Ah, est-ce qu'on les connaît?
Non.
Est-ce que moi je les connais?
Vous les avez
non.
faits.
Vous les avez.
Est-ce que vous les connaissez?
Un peu.
Voici un premier indice musical.
Un jour comme aujourd'hui, où les rues étaient sombres, j'ai épousé une ombre sans savoir qui était. Du temps où je me battais contre des ombres. Je l'ai vu sous la pluie, dans l'éclair de ma lame. Ses yeux étaient de flammes au matin de cette nuit.
Johnny Hallyday qui chante « J'ai épousé une ombre ». C'est un bon premier indice, invité mystère, n'est-ce pas?
Absolument.
C'est l'ombre qui est l'indice?
C'est de film.
C'est de film, bien sûr,
J'ai
Liane.
Épousé une ombre.
Est-ce que vous jouez d'un instrument?
Non.
Est-ce que vous aimez chanter?
Oui.
Vous avez un film en ce moment, en salle?
Vous êtes blonde?
Non.
Non. Non.
Vous êtes brune?
Non.
Vous n'avez pas de cheveux?
Oui.
Vous êtes russe? Rousse, pardon.
Non.
Elle n'est pas russe. Et en fait, vous avez changé souvent de couleur de cheveux, on peut dire, invité mystère.
Vous êtes grande?
Absolument.
Et je dois dire qu'en ce moment, votre couleur de cheveux est plus difficile à trouver.
Absolument.
Ah oui, d'accord.
François Berléand propose Nicole Garcia. Êtes-vous Nicole Garcia?
Absolument pas.
Voici un deuxième indice.
Je m'en remets à nos lendemains. On renaît dans nos lendemains. Tu vois, quand vient la peine, le temps l'éteint. Je m'en remets à nos lendemains.
Ah, la chanson de Vianney sert de générique aussi à une série, c'est un bon indice. Liane Folie propose Ariane Séguillon. Êtes-vous Ariane Séguillon?
Absolument pas.
Bon d'accord, vous
êtes... Est-ce que vous êtes né en France?
Absolument pas.
Bon d'accord, est-ce que vos enfants vont à l'école?
Non.
Et ils sont à la retraite?
Pas quand même.
Vous avez un nom à consonance française, comme demanderait Madame Bravo?
Non.
Liane Folie vous a identifié, elle ne dit plus rien. Bravo, yes. Liane. Voici encore un indice pour les autres. C'est Bruno Mars qui nous aide, évidemment. C'est un gros indice, hein, Bruno Mars. Vous êtes d'accord, invité mystère?
Absolument.
Et oui, c'est malin comme indice, mais c'est un bon indice.
C'est parce que vous êtes né à l'étranger que vous ne connaissez qu'un seul mot en français, qui est absolument.
Voilà, Christina.
Christina, ça c'est un bon indice.
Est-ce que c'est Mars l'indice?
Oui, c'est Mars. Et d'ailleurs, Pierre Palmade vous a identifié. Bravo Pierre. Jean Benguigui aussi a identifié notre invité mystère. Ouais. Voici encore un indice.
Quelle chanson magnifique.
Très vieille chanson.
Magnifique.
Cuando quieras quitarme.
Alors Christine Bravo.
Bah je sais qui c'est. Et vous avez un nom de moi? Au nombre des messes. Elle comprend rien.
Oui, elle a nombré des messes, comme vous dites. Christine Bravo, vous l'avez bien identifiée. Regardez, Berléand cherche encore. Picouli aussi.
Non, bah,
vous voulez que je vous la fasse chanter? Je peux vous la faire chanter si vous voulez.
Ouais.
Écoutez-la.
Voilà.
Qu'il me prend dans ses bras.
Voilà.
Qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Êtes-vous Edith Piaf, demande Berléand.
Oh là là.
Le monde est tous les jours. Et ça me fait quelque chose.
C'est bien l'accent. L'accent.
Il
y a du flamenco derrière.
Ah oui, alors.
Je me tourne vers Jean Benguigui, Liane Folie, Pierre Palmade et Christine Bravo.
Oui.
Notre invité mystère, c'est
Victoria Abril.
Et Victoria Abril qui nous rejoint. Victoria Abril était bien notre invité mystère.
Bravo.
Elle était à l'affiche du théâtre de la Renaissance. avec une pièce qui devrait à la fois vous amuser et vous émouvoir. Une pièce mise en scène par Jérémy Lipman, drôle de genre. Elle est aux côtés de Lionel Astier, entre autres Victoria Abril. Bonsoir.
Bonsoir.
Rien que des copains à vous ici, évidemment.
Comment ça, bonsoir? Ah oui, oui, ben, moi, de toute façon, je viens, je sors du lit. Mais c'est en direct, ce truc?
Non, il est bientôt 18h.
Ah voyez. D'accord, il faut que j'aille au théâtre alors.
Eh ben, oui. Ah ben, c'est à 21h, vous avez le temps quand même.
Ouais, ouais, mais j'ai quand même 2 heures de préparation.
Ah ben, je comprends
plus de tout ça.
Elle a les cheveux roses en plus, vous avez vu?
Oui, c'est les cheveux de mon personnage, Carla Dumont-Chapuis. Mais avant, j'étais Carlos, hein.
Ah oui, c'est génial cette histoire.
Ah oui, parce que effectivement, ouais. Notre amie Victoria Abril joue une femme transgenre.
Absolument.
Et son mari ne le savait pas. C'est tout le sel de la pièce.
Voilà, voilà, c'est ça. La pièce, c'est ça. Il y a toujours quelques non-dits dans un couple.
Mais là, c'est énorme.
Négro,
oui,
hein.
Sacré nom.
Ouais, c'est un gros gros.
Il va le mensonge. Il n'est pas curieux le mari. Hein.
Il va le savoir quand.
Bah non, c'est que le chirurgien a fait du très beau travail. Hein. Et puis tu sais, aujourd'hui, il est quasiment impossible de faire la différence entre un vagin naturel et un vagin reconstruit.
Oh bah,
hein.
Ah oui. Moi, je me trompe tout le temps. Mais je me trompe tout le temps. Je les confonds.
Non, mais Laurent, si c'est pas écrit dessus, tu sais pas. Maintenant, il y a un truc. Il faut l'écrire. Il faut qu'elle cache de la poste. Tu comprends?
Alors, ça fait combien de soirs que vous jouez là? Ça fait un petit moment déjà.
Mais non. On a été retardés d'une semaine à cause du Covid. On les a tous pris et on a retardé. On a commencé mardi. Ça fait 3 jours qu'on entend la pièce avec les publics et c'est vraiment une vraie tragicomédie. C'est-à-dire une tragédie sur scène. Et une comédie dans la salle. Tu vois?
Évidemment. Pierre Palmade a fait partie, mais la première c'était Liane. Hein, mais quand même, Pierre Palmade a fait partie de ceux qui vous ont retrouvé rapidement, puisque évidemment il a écrit la dernière pièce dans laquelle vous aviez joué.
La chance d'être joué par Victoria.
Oui. Paprika. Et voilà, alors là, évidemment, tout de suite, il a été beaucoup plus facile pour lui de retrouver Victoria Abril que Corinne Coppin. Et ou Claudine, d'ailleurs, j'ai oublié son prénom moi-même, Claudine voilà. Coppin. Liane, qu'est-ce qui vous a fait deviner tout de suite?
Bah, disons que on a partagé une belle aventure avec Victoria. Mmh. On a été juré dans une émission hein, sur M6.
Ah, mais
à
oui,
l'époque.
C'est vrai, avec Karine Le Marchand.
Et qu'est-ce qu'on a ri ensemble. Ouais. C'était merveilleuse. Et en fait, non, c'est la série tout d'un coup qui m'a mis vraiment sur la piste.
C'est la chanson de Vianney.
C'est la chanson de Vianney.
Puisque c'est la chanson de la série Demain nous appartient. Oui. Et vous jouez Rebecca Flores dans cette série sur TF1.
Absolument.
Et donc,
mais c'est fini.
Ah bah zut alors.
Comment ça, c'est pour un mois.
Ah, juste pour un mois.
Une invitée guest pour un mois.
Bon,
magnifique, un rôle magnifique.
On va vous retrouver vite. J'ai épousé une ombre, évidemment. C'est un de vos premiers films chez nous, ici en France, dans les années années 80. Bruno Mars, c'était évidemment pour désigner le nom d'un
la
mois.
La suite, Avril.
Eh oui, Mars Avril, ouais, François Berléand. Ouais,
mais fallait dire Avril, alors, dans ces cas-là. Ou tu aurais pu dire Maréchal Juin aussi.
Tom Novembre et Betty Mars.
C'était ça l'indice.
Mais oui.
Mais c'est nul. Que c'est impossible de trouver Avril à partir d'un mec qui s'appelle Mars.
Oui. Non, c'est vrai qu'on aurait pu mettre la chanson de Laurent Voulzy. On aurait pu mettre l'une fille
d'Avril. Après Christine, il faut avoir un petit peu plus de la suite dans les idées. Après Mars, c'est Avril.
Et voilà, c'est ça.
Bien sûr.
D'ailleurs, Victoria, parce que je crois que c'est la dernière émission de Christine Bravo aujourd'hui.
Ah bon?
Et vous avez été grosse tête pendant des années avec Philippe Bouvard, c'est qu'on vous attend, hein. Il faut que vous reveniez ici nous voir.
Ah ici, Belle, est-ce que vous êtes trop tôt? Enfin, trop tard. Enfin, je sais pas.
Eh ben, on va rester comme ça, on va pas changer d'heure.
Elles sont déjà très amies, c'est une espèce de coup de foudre. Nous assistons à un coup de foudre.
Je peux adapter les horaires pour vous, Victoria, j'adapterai les horaires.
Ouais, non, vous savez.
Alors, ouais. Il est content de retrouver Pierre Palmade.
Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
François Berléand, manifestement, vous vous connaissez avec François Berléand.
Attends, j'ai une envie fou de travailler avec toi et ça n'arrive jamais. Et ça n'arrive jamais. Et en plus, tu ne me reconnais même pas, ça ne risque pas d'arriver. Hein. Alors là...
C'est
Oui, là, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Là, je dois dire. Mais de toute façon, je suis naze en tout.
C'est pour ça qu'on t'aime.
Et Jean-Benguigui, est-ce que vous connaissez Jean-Benguigui?
Si, si, si.
Moi, je l'aime beaucoup, cette jeune femme.
Merci ouais. beaucoup. Ouais. Cette jeune femme, m'encanta.
Mais oui, quand même.
Prends quelque chose, c'est moi qui invite. Je vais le faire.
Vous êtes combien de comédiens dans la pièce? Il y a combien d'acteurs dans la pièce?
Quatre.
D'accord.
Et quatre. Oui, on va les citer d'ailleurs vos oui. camarades. Oui. Effectivement, il y a aussi Axel.
Alors Huette. François, c'est Lionel Astier.
Voilà. Oh, super.
Ouais. Jade Rose Parker, qui est l'auteur de la pièce et qui joue ma fille, Louise. Et Axel Huette. Qui joue les fiancés de ma fille.
C'est pas mal de jouer avec l'auteur parce qu'elle peut souffler le texte.
Elle... Absolument. Bah, ça m'arrive plus. Mais pendant les répétitions, oui, elle me soufflait. Elle est magnifique. Elle est géniale. Non, la pièce, elle est... Pierre, il faut que tu viennes.
Ah bah, moi, je vais venir me voir. Ça donne envie.
Beaucoup de gens que Victoria refuse beaucoup de pièces, donc...
Oui.
Alors, si me lancer des fleurs, hein. Mais...
Si, non, mais c'est vrai, j'en ai fait
que trois.
C'est
vraiment qu'elle l'aime.
Jérémy Glibman a eu la grande idée de casser les quatrième mur. Donc le public n'est pas... On ne fait pas semblant qu'il n'est pas là. Il est là et il participe. Et il est vraiment interactif. Ça donne une autre pièce.
Il faut dire que Lionel Astier est homme politique en pleine campagne électorale dans la pièce.
Absolument.
Ça joue et ça compte, évidemment.
Ouais.
Et vous, donc, vous avez un problème avec votre prostate.
Voilà. J'ai un cancer.
Je crois qu'on a bien résumé l'affaire.
Voilà.
Ah, ouais, c'est
comme le général. Ça a l'air assez délicat, voilà. Tout ça, oui.
Ça, c'est un argument de vente.
Ben oui.
Ouais.
C'est ça qu'il fallait dire dès le départ.
Victoria Abril, oui. De prostate, c'est
ouais.
magnifique.
Ouais.
Drôle de genre au théâtre de la Renaissance. Merci, Victoria Abril, d'être venu nous voir. À demain, 15h30, avec d'autres grosses têtes. Non.